RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Il est midi 55 et dans un instant, coup d'envoi de 3 Monaco que l'on va suivre en direct avec Manu Amoros à partir de 13h. On viendra également dans l'intégral sport sur le match d'hier du Paris Saint-Germain face à Nantes avec Mbappé devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG. Vous entendrez l'attaquant français qui a été interrogé à la fin de la rencontre. Et bien sûr, on vous donnera également les toutes dernières infos infirmerie du PSG à 3 jours du match face au Bayern Munich. On ne manquera rien non plus de la première étape de Paris-Nice. C'est du vélo et ça sera à suivre en direct dans cet intégral sport. Un intégral sport qui vous emmènera tout l'après-midi jusqu'à 16h et le top départ du Grand Prix de Bahreïn, le lancement de la saison de Formule 1. On vous présente dans un instant également les forces en présence. On revient sur les qualifications d'hier avec Max Verstappen qui partira en pole position. Ça sera dans un instant dans l'intégral sport. Mais d'abord, on va retrouver Fred Joly en direct du Stade de l'Aube pour 3 Monaco. Salut Fred!
Bonjour tout le monde, bienvenue au Stade de l'Aube pour ce 3 Monaco, l'incompris des équipes avec le 4-4-2 du côté de 3, pas le 4-4-2 mais du tout, le 5-4-1 du côté de 3, le 4-4-2 c'est pour Monaco. Galon dans les buts, une défense à 5 avec Salmi, Rami Palmer dans l'axe, Brousse à droite, Abdou Conté à gauche, Chabalrin, Kouamé à la récupération, Audobert et Boudoura dans le couloir gauche, Lopez dans le couloir droit et Ripard à la pointe de l'attaque puisque Mamad Baldé est suspendu. Un 4-4-2, il est pour Monaco avec Nouvelle dans les buts, la défense composée de Caio Henrique, Sarr, Dissasi, Aguilar, Fofana, Matazo à la récupération, Golovin sera à gauche, Diata sera à droite, Voland associé à Ben Yedder à la pointe de l'attaque monégasque.
Très bien Fred, dans un instant retour avec toi sur les compos d'équipe, mais on a le temps de saluer Manu Amoros. Salut Manu.
Salut François, salut Fred, bonjour à tous.
Très heureux de te retrouver pour cet après-midi qui va débuter donc par ce 3 Monaco. Un choc important Manu entre deux équipes dans le dur puisque 3 reste sur 5 défaites d'affilée. Monaco c'est 2 défaites de suite, mais 2 défaites qui font mal en Ligue Europa, éliminé et contre Nice.
Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est des moments difficiles à passer, mais je crois que Monaco est ambitieux et s'il gagne à 3, il peut récupérer la 3e place puisque Marseille.
Même la deuxième provisoire, en tout cas.
Ouais, même la deuxième provisoire, puisque Marseille
joue ce soir.
Donc non, c'est un bon match à voir. Et puis bon, ben 3, ils sont dans le dur. Hein, il faut qu'ils aient un jeu un peu plus ambitieux et qu'ils y croient à leur bonne étoile, éventuellement, pour se sortir de là où ils sont, pour pouvoir éventuellement se sauver.
En face, Fred, c'est vrai que c'est une équipe de 3 qui n'a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison. Et ça remonte à la fin août contre Angers. Donc on a du mal à imaginer des Troyens créer la surprise face à Monaco cet après-midi.
Ouais, évidemment, hein, c'était dans un autre temps avec un autre entraîneur, dans d'autres conditions. Les Troyens sont vraiment, vraiment, tu le disais, dans le dur, le très très dur. Ils enchaînent les contre-performances avec un Patrick Kisnorbo, cet entraîneur australien que l'on ne connaissait pas d'ailleurs avant qu'il débarque à 3, qui a vraiment du mal à imposer son style, ses idées. Le public et les supporters ne sont pas en colère, plutôt dépités de voir leur équipe finalement offrir un tel parcours. C'est difficile, c'est compliqué, les Troyens n'y arrivent pas. Mais ce qui est sûr, c'est que du côté de la direction, on a confirmé que, quoi qu'il arrive, Patrick Kisnorbo irait jusqu'au bout de cette saison. Dans quelles conditions, on ne sait pas. Et on ne sait pas surtout comment vont terminer les Aubois cette saison qui s'annonce bien, bien difficile.
Très bien, je vous rappelle bien évidemment que dans cet intégral sport, on revient dans un petit moment sur le match d'hier au Parc des Princes entre PSG et Nantes, le 201e but de Kylian Mbappé. On t'interrogera dessus. Manu, tu as suivi ça bien évidemment. Les infos également du PSG à 3 jours du match face au Bayern. Mais d'abord, ce 3 Monaco que l'on va suivre en direct et en intégralité sur RMC avec Manu Amoros donc et avec Fred Joly en direct du Stade de l'Aube. 3 Monaco, de l'enjeu absolument partout. Pour 3 en vue du maintien et pour Monaco en vue de la Ligue des Champions, Fred.
Oui, avec il va y avoir évidemment une minute d'applaudissement en hommage à Juste Fontaine, une minute d'applaudissement que l'on a eue sur tous les terrains. Et puis il faut signaler que c'est une première ce soir, enfin cet après-midi au Stade de l'Aube, puisque le trio arbitral sera 100% féminin avec Stéphanie Frappard au sifflet. Manuela Nicolosi et Elodie Coppola seront, elles, les assistantes de Stéphanie Frappard dans cette rencontre. Une toute première. C'est la première fois, effectivement, qu'un trio arbitral 100% féminin dirige une rencontre, alors que vous l'entendez. Le public du stade de l'Aube qui rend hommage à Juste Fontaine qui nous a quittés il y a quelques jours. Un bel hommage, tout le monde est debout, tout le monde applaudit. Voilà pour ce qui est des petites infos d'avant-match.
Il y a un mot peut-être sur Juste Fontaine, Manu, bien évidemment. Alors ce n'est pas ma génération, mais toi tu as vécu avec peu, ouais. Juste Fontaine, bien sûr. Dans l'imaginaire, pour un jeune footballeur, ça te démarquait quand même les esprits.
Alors je ne l'ai pas connu en tant que joueur, puisque j'étais malheureusement trop jeune quand il a arrêté, mais je l'ai connu un petit peu en dehors. C'était quelqu'un de un mec super qui racontait que des histoires, qui aimait, qui était la joie de vivre en permanence. Et il faut pas oublier non plus qu'il est recordman des buts en Coupe du Monde, ouais. Une seule Coupe du Monde, il a marqué 13 buts. Jusqu'à présent, c'est pas égalé. Donc voilà, c'est un record d'un Français, c'est un record historique, et puis c'est un grand monsieur qui a contribué à pas mal de choses, puisqu'il a créé le CIF, le club international français. Il a participé comme entraîneur au Paris Saint-Germain, puisque je crois que c'est lui qui les a fait remonter il y a quelques années en arrière. Donc voilà, c'est quelqu'un qui compte énormément pour le football français.
Exactement. On suivra aussi une minute de silence sur tous les terrains de Ligue 1 cet après-midi, et notamment à Reims, bien sûr, puisqu'il a joué à Reims, et ça sera une minute de silence bien particulière à Reims à partir de 15h. Mais pour l'heure, 3 Monaco, coup d'envoi dans un instant. Fred Jolly.
Le coup d'envoi à l'instant même, le coup d'envoi donné par les Troyens et par Ripard, qui est titularisé à la pointe de l'attaque troyenne, car on rappelle que Mama Baldé est suspendu, il est expulsé lors du match à Ajaccio. Il est donc absent, et c'est Ripard qui a été titularisé, qui a la lourde tâche d'animer cette pointe de l'attaque auboise, alors qu'on sait que Mama Baldé est un garçon essentiel dans le schéma troyen. Et bien il faudra faire sans Baldé pour cette rencontre. Le ballon est dans les pieds des Troyens après 35 secondes de jeu. Pour l'instant, on cherche un petit peu à se jauger du côté des Troyens et des Monégasques. Avec cette longue balle, c'est pour Ripard, la tête monégasque, et le dégagement d'Aguilar qui fait son retour dans cette équipe monégasque, dans la défense monégasque, lui qui a eu quelques petits soucis musculaires. Et bien il retrouve sa place sur le côté droit de cette équipe monégasque. Alors savoir comment les Troyens vont entamer cette rencontre, Manu, hein, c'est vrai que c'est jamais simple lorsqu'on n'est pas en confiance, de tenter de rentrer bien correctement avec le bon état d'esprit dans ce type de match.
Oui, c'est compliqué de rentrer dans un match comme ça alors qu'on peine à gagner des matchs, mais je crois que les Troyens, ils ont bon coup à jouer cet après-midi. Il faut pas qu'ils doutent de leur football, qu'ils soient beaucoup plus ambitieux et qu'ils essayent de se créer davantage d'occasions, et surtout avoir une équipe très solidaire, parce qu'on voit souvent l'équipe troyenne qui est vraiment étirée, que ce soit le milieu de terrain ou les défenseurs, ça s'étire et ça donne l'opportunité à l'équipe adverse de pouvoir jouer au football et d'être en difficulté. Donc à eux à faire le nécessaire, à monter plus haut déjà, parce que là on le voit bien là sur cette action là on voit les Troyens qui sont assez bas. Donc s'ils veulent essayer d'inquiéter Monaco, il faut qu'ils jouent plus haut, ne pas hésiter à aller presser plus haut et à aller inquiéter les Monégasques.
Alors Fred a parlé effectivement du retour d'Aguilar. Il y a un retour important aussi du côté de Monaco, c'est Voland. Alors certes, il a joué des bouts de match, mais c'est la première titularisation pour l'Allemand depuis le mois de novembre en Ligue 1. Il a été blessé très souvent cette saison, et on retrouve un duo qui fonctionnait bien les années passées avec Ben Yedder. Manu.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, après le jeu monégasque qui est fait de joueurs de couloir comme Golovin qui apporte énormément, Diatta aujourd'hui qui est sur le côté droit et Golovin sur le côté gauche, mais c'est surtout l'animation qui est le plus important entre Ben Yedder qui fixe plutôt la défense et Voland qui va tourner beaucoup plus autour de Ben Yedder. Mais il y a beaucoup de possibilités, je dirais, à Monaco, et bon, c'est un joueur de grande qualité qui marque beaucoup de buts, donc c'est normal que Clément, l'entraîneur, l'utilise régulièrement.
Ouais. Même si, effectivement, il n'a marqué que 5 fois cette saison, toute compétition confondue.
C'était 15... mais tu le disais, François, voilà, avec les blessures qu'il a eues, c'était pas évident.
Exactement, c'était 15 buts, toute compétition confondue la saison dernière. Il n'a marqué que 2 fois en Ligue 1. Peut-être qu'il sera un des animateurs de cette rencontre entre Troyes et Monaco. On retourne au stade de l'Aube avec toi, Fred.
La troisième au stade de l'Aube, troisième minute de jeu, 0-0, la touche en faveur des Troyens et un ballon qui a été remis en touche précisément par Voland. La touche est une nouvelle fois et le ballon est une nouvelle fois dans les mains d'Abdou Conté qui joue rapidement. Il trouve Chaval en Abdou Conté dans la profondeur. Ripart peut-être le long de la ligne de touche. Il y a Dizazi qui le suit et qui le freine dans son élan. Il peut tout de même glisser sur Odober de l'autre côté. La tête s'est remise, c'est parfaitement remis vers Kouamé qui va peut-être essayer de frapper. Non, finalement, il préfère retrouver Ripart sur le côté gauche. Allez, Ripart, faut frapper. Oh, c'est frappé, mais c'est complètement manqué. Il a trop fermé son pied au dernier moment et le ballon est passé assez largement à côté du but de Nobel qui a laissé tranquillement passer cette balle. Alors, il aurait peut-être dû, Manu, peut-être chercher à l'enrouler, à viser peut-être la lucarne extérieure. Enfin, c'est toujours facile à dire, mais tout de même, ça aurait été un objet.
Peut-être mieux. Facile. Mais il aurait pu peut-être avancer un peu plus puisqu'on avait des Monégas qui ne montaient pas sur lui. Donc, avancer un peu plus, se centrer un peu plus dans l'axe. Et c'est vrai qu'il aurait pu envelopper ce ballon au deuxième poteau. Ça aurait été peut-être plus dangereux, mais bon, il a choisi fort au premier poteau.
Bon, Odober, si. Et ben voilà Odober, lui, il a trouvé le cadre au moins. Odober, il a frappé le pied droit, ben, s'enrouler, c'est un petit peu plein axe sur le portier monégasque. Ça paraissait plutôt simple, en tous les cas pour le gardien de Monaco. 5 minutes de jeu, 0-0 entre 3 et Monaco.
Oui, ça paraît simple avec toi, Fred, cette balle enroulée. Bon, ça se rapproche. On n'est pas encore dans la lucarne, mais peut-être qu'on aura droit à un beau but comme ça.
Trouver le cadre, déjà.
C'est déjà pas mal. Et les premières offensives, on l'a vu, sont troyennes. 3 Monaco, on y retourne dans un instant. On revient bien sûr dans l'Intégral Sport avec également des infos à vous donner sur le Paris Saint-Germain qui est à 3 jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. On viendra aussi sur la folle soirée de Kylian Mbappé. Restez avec nous sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Il est 13h09, vous êtes sur RMC, on lance cet après-midi de sport qui nous amènera par exemple jusqu'à 16h pour tous les fans de Formule 1 avec le début de la saison. Ça sera le début du Grand Prix du Bahreïn à ne pas rater. Et dans cet Intégral Sport, Jean Lecroix viendra nous voir pour nous présenter cette course à venir après les qualifications d'hier. Dans un instant, on va revenir aussi sur Paris Saint-Germain-Nantes avec l'événement, le 201e but avec le PSG de Kylian Mbappé et les dernières infos à quelques jours du match face au Bayern Munich. Et puis on ira du côté de Paris-Nice aussi puisque c'est la première étape, mais d'abord on suit en direct 3 face à Monaco. C'est de la Ligue 1, 26e journée, 0-0 toujours. Fred Joly.
Exactement, après 8 minutes de jeu, toujours 0-0 entre ces Troyens et ces Monégasques. Il y a eu une tentative de Golovin, la frappe est passée devant le but et assez largement à côté du but de Gallon. Voilà pour l'instant la seule véritable tentative monégasque, même si les Monégasques sont toujours en possession du ballon avec cette accélération plein axe. On ne monte pas du tout sur le joueur, la frappe, oh, c'était bien vu cette percée volante, me semble-t-il, qui avait fait une belle percée et qui a frappé lointain. Une frappe lointaine qui est passée à côté du but de Gallon. Attention tout de même à ne pas laisser trop ces monégasques prendre confiance et prendre plus de terrain possible. Attention à ne pas se laisser surprendre et à trop reculer face à ces monégasques qui vont finir par prendre confiance.
Première occasion franche quand même pour Golovin, même si ça passe à côté. On est avec Manu Amoros, on va parler un petit peu de vélo puisqu'on va retrouver Arnaud Souk qui suit Paris-Nice pour RMC. Paris-Nice, c'est la première étape, 169 km dans les Yvelines. Salut Arnaud.
Salut François, salut à toutes et à tous.
Où est-ce qu'on en est de cette étape avec, évidemment, on va en parler, on aura le temps d'en parler dans l'Intégral Sport, de ce duel très attendu entre Pogacar et Vingegaard.
Et oui, effectivement. Alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant à 13h11? Ça fait seulement 11 minutes que les coureurs se sont élancés. Donc, ils ont parcouru un petit peu moins de 10 km pour l'instant. Une étape 100% yvelinoise. Pour ceux qui connaissent les amateurs de vélo, on va passer notamment à la Selle-les-Bordes, la Côte de Millon, la Chapelle, la Chevreuse et puis donc à la Verrière. La Verrière à côté de Trappes et de Rambouillet, donc non loin de Paris. Une étape de 170 km a priori qui devrait laisser la place à un sprint finale tout à l'heure, mais attention, alors il n'y a pas beaucoup de vent, mais on sait jamais sur Paris-Nice, toujours début mars, le vent peut rapidement se lever et venir avoir son petit rôle à jouer dans le déroulement de la course. Donc évidemment on surveillera ça tout au long de l'étape. Tu l'as dit, il y a du beau monde, du très très beau monde. Il s'agit d'ores et déjà de ne pas perdre de temps pour les favoris du classement général. On a tout simplement le premier et le deuxième du dernier Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Pareil plateau sur Paris-Nice, ça n'était pas arrivé depuis 1994. 14. On a également Dani Felipe Martinez, le Colombien Maximilian Charman, l'Allemand qui avait remporté à deux reprises Paris-Nice par le passé. Puis côté français, pourquoi pas Romain Bardet et David Godu qui tenteront de venir se mêler à la lutte pour le podium final dans 8 jours à Nice. Donc voilà, vraiment un plateau très 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 intéressant. Mais évidemment, tu en as parlé François, on va avoir les yeux rivés vers ce duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Ça va être assez exceptionnel. Les deux ont hâte vraiment d'en découdre. On a pu les interviewer hier en conférence de presse et on s'est rendu compte à quel point ils étaient très contents de se retrouver quelques mois après le Tour de France.
Bon, en tout cas effectivement c'est un duel qui donne envie dans ce Paris-Nice et on en reparlera un peu plus longuement avec toi tout à l'heure. Tu restes avec nous bien sûr dès qu'il se passe quelque chose sur ce Paris-Nice et cette première étape, on te retrouve. Il y en a un qui connaît très très bien les Yvelines qui nous fait le plaisir d'être en studio avec nous, c'est Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut François. Salut Manu. Bonjour à tous.
Tu étais hier au Parc des Princes pour suivre oui. PSG Nantes. On viendra d'ailleurs dans un instant sur l'événement de la soirée, le 201e but de Kylian Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais d'abord, on a vu Marquinhos, on a vu Mukiele sortir en cours de match. On est à 3 jours du match face au Bayern, 8e de finale retour de Ligue des Champions. Évidemment, ça peut inquiéter les supporters du PSG. Donne-nous les toutes dernières infos sur l'infirmerie du PSG.
C'est clairement le point noir de cette soirée, hein. Une soirée de fête entachée par ces deux sorties sur blessure, donc de Nordi Mukiele et de Marquinhos. On va faire du cas par cas pour vous donner des nouvelles. D'abord concernant Nordi Mukiele, il faut rappeler que il revenait de blessure, une blessure au disque jambier qui l'a tenu écarté 6 semaines des terrains, que cette semaine à l'entraînement il a ressenti des douleurs au mollet, ce qui l'a obligé à s'entraîner une fois à part avec un des préparateurs physiques du Paris Saint-Germain. Et donc il a été touché hier soir au tendon d'Achille. Christophe Galtier est revenu sur sa sortie en conférence de presse d'après match. Il a expliqué que c'était un coup donc au niveau du tendon, que ça ne semble pas très grave. Le même constat a été fait concernant Marquinhos qui lui a reçu un coup aux côtes. Attention, son cas est à surveiller avec un peu plus d'attention parce qu'un nouveau bilan va être fait aujourd'hui par le Paris Saint-Germain. Évidemment, vous retrouverez toutes les informations sur rmcsport.fr. Mais voilà, il faut surveiller ouais. avec un peu plus d'attention la situation du défenseur central du Paris Saint-Germain.
Un puzzle difficile à constituer pour Christophe Galtier, Manu, et ça pourrait être encore le cas pour le match contre le Bayern avec à chaque fois la défense, hein, les défenseurs qui sont touchés. Hein, c'est un mal récurrent.
Ouais, c'est un mal récurrent et puis bon, malheureusement dans le football, il y a les blessures font partie du bagage du footballeur et c'est vrai que ça tombe à un mauvais moment puisqu'il y a un match très très important pour l'avenir du PSG en Coupe d'Europe. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils vont avoir assez de temps pour pouvoir récupérer ces deux joueurs-là? Est-ce qu'il y a des solutions de Galtier qui va être peut-être plus dans le contexte ou pas? On ne sait pas. Il va falloir peut-être attendre jusqu'à demain pour savoir si Marquinhos et Mukiele peuvent éventuellement revenir.
Ce que Galtier a dit en tout cas dans cette même conférence de presse d'après match, Manu, c'est qu'il avait tout anticipé, hein, que justement s'il y avait des petits bobos à droite à gauche, qu'il allait faire rentrer en jeu les jeunes. C'est ce qu'il a fait ouais. avec notamment El Shaddai Bichabou, avec Timothée Pembélé. Ouais. Mais on est obligé de rappeler que cela vient s'ajouter aux blessures de Neymar, qui est forfait d'ailleurs pour le match face au Bayern Munich. Christophe Galtier l'a confirmé avant ce match face à Nantes, et aussi le forfait de Renato Sanchez.
Exactement. Donc on suivra ça, et tu l'as dit, RMC Sport pour toutes les infos. Toujours 0-0 entre Troyes et Monaco. On y retourne dans un instant, mais on continue de parler de ce Paris Saint-Germain-Nantes avec Arthur Perrault et Mbappé, bien sûr, qui est devenu enfin le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je dis enfin parce que c'était écrit, 201e but avec ouais. le Paris Saint-Germain. Il devance ouais. Edinson Cavani. Et le PSG a pu sortir ce qui était prévu en fait pour la cérémonie.
C'était écrit, mais il a joué la montre. Hein. Oui. On va dire qu'il a entretenu le suspense jusqu'au bout avec ce 201e but à la 92e minute de jeu hier soir au Parc des Princes. Et c'est vrai qu'on s'était renseigné pour tout vous dire avant cette rencontre sur évidemment s'il y avait quelque chose de prévu en après-match en cas de record pour Kylian Mbappé. Oui, il y avait quelque chose de prévu et on a eu le droit à une véritable fête avec un logo, le logo du club qui a été placé au milieu milieu du terrain sur une grande bâche, des feux d'artifice, des chants à son honneur, un message aussi du président Nasser El Khelaifi qui n'était pas présent hier soir au Parc des Princes. Voilà, on rappelle que avec ce but, il entre dans la légende du Paris Saint-Germain et il devance un certain Edinson Cavani. Et là aussi, pour vous dévoiler un peu les coulisses, d'habitude les joueurs passent en zone mixte dans la foulée de la rencontre et le coach vient en conférence de presse. On a très rapidement appris hier soir que, exceptionnellement, et ça se comprend, Kylian Mbappé viendrait dans la foulée de Christophe Galtier face aux journalistes dans le célèbre auditorium du Parc des Princes. Et la question lui a été posée, voilà, qu'est-ce que cela fait de battre ce record avec le Paris Saint-Germain? La réponse de l'attaquant du Paris Saint-Germain.
Non, la semaine dernière c'était une belle journée au boulot quand même, mais bien sûr qu'aujourd'hui c'est spécial, c'est des moments comme ça qui feront date. Et on joue pour ça. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l'histoire, pour pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici.
Toujours 0-0 entre Monaco et Troyes. Manu, quand tu as vu effectivement cette cérémonie pour Kylian Mbappé, est-ce que tu trouves qu'on en fait trop? Je n'ai pas le souvenir. Alors Arthur, peut-être que tu vas me dire l'inverse, mais pour Cavani, qui a eu autant de choses de prévues. Il y avait un petit trophée, c'est vrai, pour le meilleur buteur.
On se posait la question à la rédaction ce matin. Manu, je pense qu'on peut même comparer avec les remises de trophées de champion de France. Je trouve pas que c'était au-delà de ce qui a déjà été fait par le passé pour la remise de l'Hexagone ou de voilà. Je trouve que c'est resté plutôt sobre finalement, Manu.
Ouais, mais c'est bien qu'on le mette à l'honneur. C'est quand même un joueur français qui est recordman des buts aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Et c'est normal qu'on lui donne un trophée, qu'on le mette en avant. Et mais bon, je crois que tous les records sont faits pour être battus. Donc à un moment donné, on savait qu'il allait battre le record des buts. Et c'est quelqu'un qui aime les records et qui va les chercher. Donc il faut s'attendre dans l'avenir, parce qu'il est encore quand même jeune, qu'il batte encore d'autres records.
N'hésitez pas à réagir. Hashtag RMC Live sur Twitter et l'appli RMC Direct Studio. Est-ce qu'on dit sur ce PSG Nantes? Donc c'était hier. On se projette évidemment sur la suite. Alors la suite pour le PSG, c'est le Bayern, c'est dans 3 jours, mais la suite pour Mbappé également, puisqu'il a été question de son avenir. Évidemment, à chaque fois que les journalistes ont la chance d'avoir Kylian Mbappé en conférence de presse,
là c'est un bon prétexte,
on lui pose des questions sur son avenir. C'était le cas encore hier, hein.
Ouais, et Manu le disait, Kylian Mbappé ne s'est jamais caché, il est venu au Paris Saint-Germain pour battre des records. La question lui a été posée hier soir sur est-ce que la prochaine étape c'est le Ballon d'Or, c'est cette Ligue des Champions avec ce match retour mercredi soir face au Bayern Munich. Mais évidemment que la question lui était posée sur son avenir. Est-ce qu'il s'écrira oui ou non au Paris Saint-Germain? Lui qui, on le rappelle, a prolongé son contrat il y a déjà un an. Contrat qui court jusqu'en juin 2024. Alors, est-ce que Kylian Mbappé y pense déjà? Sa réponse en conférence de presse d'après-match.
Pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Donc non. Je suis ici, je suis très content. Je suis très heureux ici. Et pour l'instant, je pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain.
3 Monaco, toujours 0-0. On y retourne dans un instant avec Fred Joly.
Vous y croyez à ça, vous?
On va écouter ta réaction, Manu, au propos de Kylian Mbappé.
Moi, j'y crois pas trop à ça. Je crois que l'avenir de Kylian Mbappé se joue mercredi. S'ils sont encore éliminés contre le Bayern, je sais pas si. Je pense qu'il aura une réflexion de se dire est-ce que je continue à Paris Saint-Germain ou pas. Je crois pas que ce qu'il a dit, pas du tout.
Bon, c'est de la communication.
On verra bien mercredi.
Il faut se dire, et vous le savez mieux que quiconque, c'est que quand Kylian Mbappé se présente face à la presse, chaque mot est pesé.
Bien sûr.
Chaque mot est pesé et nul doute que cette réponse était bien travaillée. Voilà.
Allez, un dernier mot avec toi, Arthur, sur la suite pour le PSG avant le Bayern, hein, parce qu'il y a une mise au vert, je crois, qui se prépare.
Exactement. Les joueurs parisiens qui prendront la direction de l'Allemagne dès demain soir, une mise au vert, ce n'est plus arrivé depuis un an pour le club de la capitale. C'était précisément le 8 mars 2022 à Madrid avec un entraînement de veille de match au stade Santiago Bernabéu. Depuis, le club parisien est l'habitude de faire ça au camp des loges. Donc voilà, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Ce que l'on peut déjà vous dire, c'est que pour cette rencontre de mercredi soir, 3800 supporters du Paris Saint-Germain sont attendus dans les tribunes de l'Alliance Arena. C'est vrai que c'est un déplacement un peu particulier, marqué par les grèves.
Ouais.
Voilà, les supporters parisiens vont aussi devoir s'adapter. Les membres du collectif Ultra Paris vont partir voilà, entre demain soir et mardi soir, que ce soit en van ou en bus. Voilà un peu tout ce qui est prévu du côté des supporters du PSG. piège.
Parfait Arthur, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux et on continuera de parler jusqu'à mercredi, bien évidemment, de ce Bayern Paris Saint-Germain. On rappelle que le PSG avait perdu au match aller 1-0. Tout est possible dans cette rencontre. On aura l'occasion d'y revenir sur RMC. La Ligue 1, la 26e journée, c'est en ce moment 3 face à Monaco. Fred, il n'y a pas eu de but, 0-0, mais Monaco pousse de plus en plus, j'ai l'impression, Fred.
Exactement, tu as tout bon. Les Monégasques sont en train doucement, tout doucement, de s'accaparer le ballon et de se rapprocher du but de Gallon. On a vu plusieurs mouvements avec le centre d'Aguilar, la tête de Ben Yedder qui est passée juste à côté, la frappe de Fofana qui est passée certes à côté, celle de Golovin qui est passée également à côté, mais doucement les Monégasques sont sans doute en train de se régler et vont bien finir par trouver le cadre et amener vraiment le danger devant le but troyen. En tous les cas, les Aubois ont de plus en plus de mal à entrer dans la surface de réparation monégasque. C'est plutôt les Monégasques qui se sont installés bien confortablement dans la partie de terrain auboise, même s'il y a peut-être un mouvement de contre-attaque avec Ripard qui a fait un petit crochet. Oh, le bon retour de Golovin qui est venu, qui a fait l'effort pour reprendre le ballon dans les pieds de Ripard, et aussitôt on repart avec Aguilar de l'autre côté. Voilà, vous le voyez, vous l'entendez, tout au moins cette équipe monégasque est en train de mettre la main sur cette rencontre, et ça s'annonce sans doute de plus en plus compliqué pour les Aubois, même si le score est toujours de 0-0 après 22 minutes de jeu.
Parfait Fred, on te retrouve dans un instant avec Manu Amoros pour la suite de ce 3 Monaco 0-0, et on va parler également de Paris-Nice. C'est parti, la première étape vient de se lancer. On retrouvera Arnaud Souk qui est sur les routes pour suivre ce Paris-Nice. On va parler de cette course avec des grands favoris. Il y a comme un petit air du Tour de France sur le Paris-Nice. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Il est 13h26, vous êtes sur RMC dans l'Intégral Sport avec Manu Amoros. Dans un instant, on va parler de Paris-Nice, c'est parti. On sera avec Arnaud Souk pour évoquer notamment les grands favoris de cette course cycliste très attendue. Mais ça pousse pour Monaco à 3. 3 Monaco, Fred Joly en direct.
Exactement, 25 minutes de jeu, ça pour pousser, ça pousse. Les Monégasques sont vraiment en train de s'installer tranquillement dans la surface de réparation au bois, même s'il y a eu une faute de Diatta.
Toujours 0-0. Hein.
Toujours 0-0, hein. Il est retombé sur le dos de Salmier, la faute sifflé par Stéphanie Frappard. On rappelle hein, ce trio arbitral 100% féminin ce soir, cet après-midi. C'est une toute première. Stéphanie Frappard accompagnée de Manuela Nicolosi et de Elodie Coppola au niveau des assistantes. Il y aura une touche à suivre pour les Troyens. Et là, on le disait, les Monégasques sont en train de s'installer. Or, ils ne s'affolent pas, les Monégasques. Ils essayent. Alors, pour l'instant, ça passe à quelques centimètres. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup au-dessus. Mais en tous les cas, ils sont en train de se rapprocher avec un Ben Guedi qui fait une nouvelle fois un gros boulot devant. Golovin sur le côté gauche est impeccable, et puis Diatta qui fait pas forcément beaucoup de bruit mais qui est bien présent dans le couloir droit. Et puis on sent quand même le retour d'Aguilar, hein. C'est vrai que les garçons comme ça qui savent monter, déborder, centrer, et lui il fait partie de ces joueurs qui savent parfaitement faire ce type de mouvement, amène souvent le danger dans le camp troyen. Le score est de 0-0, mais ça devient de plus en plus difficile pour les garçons de Patrick Kisnorbo, l'entraîneur troyen.
Tu vois les Troyens tenir comme ça jusqu'au bout, Manu, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué hein, en défense.
Bah, c'est compliqué. En plus, ils perdent énormément de ballons dans leur moitié de terrain. Les Monégasques en profitent. Bon, ils ne se créent pas énormément d'occasions vraiment fraîches, les Monégasques, mais ça ne devrait pas tarder parce qu'on ne sent pas cette défense vraiment très bah, tiens, rassurante.
Il y a un corner, justement. Hein. Il y a un corner pour Monaco.
On ne sent pas cette défense vraiment très rassurante. Hein.
On va le suivre, le corner.
T'as raison. Elle n'est pas rassurante et elle n'est pas rassurée.
Non.
Les deux vont bien.
Il y a
bien,
beaucoup de déchets techniques. C'est ça qui est incompréhensible un peu dans cette équipe troyenne. Ils s'affolent trop et trop rapidement.
Le corner, Fred.
Et il joue à 5. Le corner qui est tiré, c'est une tête. Heureusement, celle d'Odobert pour éloigner le danger, c'est prolongé. Mais ça va être assez récupéré tout de même par Lopez. Lopez par-dessus. Oh, il avait trouvé dans la profondeur un coéquipier. Et le ballon en retrait. Oh, c'était bien vu de la part d'Izazi qui a glissé au portier monégasque. 0-0 après 28 minutes de jeu au stade de l'Aube.
Parfait, Fred. On va en profiter pour parler de Paris-Nice. La première étape, c'est entre La Verrière et La Verrière dans les Yvelines. C'est parti, Arnaud Souk. Avant de parler des grands favoris, de ce petit air de Tour de France sur le Paris-Nice, pour l'instant, le peloton est toujours groupé.
Pour l'instant, oui, on en est au tout premier kilomètre hein, de l'étape, une demi-heure de course pour l'instant et à peine une vingtaine de kilomètres parcourus. Les grandes explications qui auront lieu un petit peu plus tard dans cette première étape, on le rappelle, qui se court sous une météo relativement maussade à l'image de celle que l'on connaît un petit peu partout en région parisienne dans ce week-end. Donc un temps gris, pas beaucoup de vent, donc ça c'est quand même un élément important puisque le vent traditionnellement sur Paris-Nice c'est un catalyseur, on va dire, de problématiques pour les adversaires les uns et les autres avec des équipes qui tentent de faire des coups de bordure. Là, ça n'est pas a priori le cas aujourd'hui, en tout cas pas pour l'instant.
Et on attend évidemment sur ce Paris-Nice, alors pas forcément aujourd'hui, mais une bataille annoncée entre le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard. Tiens, ça rappelle des souvenirs aux fans de vélo puisque ça rappelle tout simplement le Tour de France.
Et j'ai envie de dire waouh, parce que ça fait un petit moment que le premier et le deuxième du dernier Tour de France ne se sont pas retrouvés sur Paris-Nice l'année suivante. Il fallait pour cela remonter à l'édition 1994 où on avait retrouvé à la fois Miguel Indurain, vainqueur du Tour 93, et son dauphin Tony Rominger, le Suisse. Et bien voilà, là c'est une réédition, on va dire, de ce qui s'est passé il y a quasiment 30 ans avec Jonas Vingegaard, vainqueur du dernier Tour, et Tadej Pogacar, les deux qui vont forcément se jauger, quoi qu'ils puissent en dire. S'ils prétendent se concentrer l'un et l'autre sur leur propre performance et vouloir gagner le plus de courses possible, il y aura forcément une petite allez, guerre, c'est un bien grand mot, mais une petite bataille psychologique en vue du Tour de France cet été, voilà, qui va prendre le dessus dans une course qui se joue traditionnellement à la seconde ou aux 10 secondes ou aux 20 secondes. Voilà, ça va être très serré tout au long de la semaine. On verra bien ce que cela donnera, mais ça nous donnera une petite indication. À noter que Tadej Pogacar s'est imposé à 5 reprises depuis le début de la saison 2023, Jonas Vingegaard à 4 reprises, donc on est déjà sur deux garçons très très en forme et qui vont nous donner le meilleur à n'en pas douter cette semaine.
Je suis sûr, Manu, que même si tu ne suis pas le vélo quotidiennement, ça t'excite un petit peu quand même de voir ces deux hommes que tu as vus lors du Tour de France se retrouver sur les routes de France pour ce Paris-Nice.
Oui, c'est toujours très intéressant de les voir parce que, mais est-ce qu'ils vont être dans le coup pour se battre tout au long de la semaine, je crois. Donc, est-ce qu'ils vont pas se reposer pour peut-être des étapes beaucoup plus importantes? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, mais c'est vrai que revoir ces grands noms du vélo et qui marquent leur empreinte, le vélo, c'est quand même bien.
Oh, le but royal! Oh, cette frappe, elle est magnifique! En pleine lucarne! Ah, c'est Kwame qui a enlevé la toile d'araignée de la lucarne de Nubel! Oh, elle est superbe! Manu, tu vas nous dire ça, mais franchement, vas apprécier cette frappe en pleine lucarne! Il se met un petit fan de corps! Voilà, boum! C'est dans la lucarne! Nubel ne peut que constater les dégâts et après 31 minutes de jeu, les stacks pour l'avantage, les stacks, mais 1-0!
Badaboum! C'est le mot! Badaboum! Effectivement, quelle frappe de Kwame, Manu!
Ouais, mais on se demandait comment ils allaient pouvoir marquer, et Kwame a pris le risque de vouloir venir conduire le ballon, éliminer un ou deux joueurs monégasques et frapper du gauche en pleine lunette. Bah écoute, c'est bien pour les Troyens, voilà, il va falloir que les monégasques se mettent un peu plus dans le match, parce qu'on les sentait collectivement bien, mais on se doutait un petit peu s'ils allaient continuer à faire un pressing. Et là, Kwame, vraiment du pied gauche, magnifique, hein. Oh là là,
au-delà de la frappe, se joue aussi de Golovin et des défenseurs monégasques un peu tendres sur le coup, mais la frappe, elle est magnifique. Oui. Effectivement, et ça fait 1-0 pour les Troyens face à Monaco. Ce match est parfaitement lancé. On va se régaler sans doute cet après-midi avec des monégasques qui sont dans l'obligation de l'emporter. Hein. Monaco qui reste sur deux défaites d'affilée, ça serait une nouvelle claque. Trois qui mènent 1-0 et qui continuent d'attaquer, Fred Joly.
Eh oui, ils ont retrouvé une petite confiance, tout au moins, ces Aubois, avec ce débordement et ce centre de Chabadrin. C'était un petit peu trop long. Ah, ça va mieux. Ils ont l'air un petit peu plus confiants. Alors, on tente maintenant. Il y a quelques minutes, on n'osait pas. Il y a Kwame qui a complètement débloqué la situation avec cette frappe. Et maintenant, ils essayent, les Troyens. Ils ont peut-être retrouvé un soupçon de confiance. C'est vrai, Manu, que ça joue pas grand chose dans la tête.
Non.
Vous avez un coéquipier qui met un super but. Et hop, c'est reparti.
Ah oui, c'est reparti, la confiance revient, on fait un pressing un peu plus haut, le bloc est plus haut, donc ça met en difficulté, et puis bon voilà, l'excitation d'avoir marqué ce but magnifique donne de l'élan à cette équipe troyenne.
Premier but Kwame en plus cette saison, hein, pour le milieu de terrain.
Et celui-là, il s'en souviendra.
Il est titulaire parce que Agoumé est suspendu. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est titulaire. Et ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas été titulaire. Mais au moins, il se souviendra, comme tu dis, de son retour à un poste de titulaire au sein de cette équipe troyenne.
Le corner, on va le suivre avec toi, Fred. Le corner troyen.
Ils sont de sans doute Lopez pour frapper direct. Ce serait quand même mieux d'amener le ballon en surface de réparation. Je pense qu'il va frapper direct. Non, finalement, ils jouent à deux. Ils ont décidé de me contredire avec la remise sur Lopez. Lopez vers Kouamé. Il va retenter le coup, Kouamé. Ah, pas à chaque fois. Et le ballon a été touché. Elle était peut-être cadrée, les garçons. Oui. Attention, hein. Kouamé, il est chaud, bien. Badaboum Kouamé, là. Il est bien dans ses chaussures. Il est bien dans ses crampons.
Là, cette fois, ils n'ont pas laissé frapper, là, quand même, les défenseurs.
Il y a 10 assis qui sont sortis comme un fou, hein. Mais ils sont loin, quand même. Hein. Ils sont loin, les défenseurs. Hein.
Ouais. Ah oui, ils sont loin, heureusement qu'il a, comme tu dis, il a vraiment jailli vers Kouamé qui avait armé son pied gauche. Le corner, une nouvelle fois à deux avec Lopez et Audobert. Alors, est-ce qu'on va se décider à la mettre dans la soupe? Non, une nouvelle fois avec Lopez. Cette fois-ci, Lopez au second poteau, c'est sorti. Peut-être la contre-attaque de Monaco avec Golovin. Golovin sur le côté gauche, il est bien pris par Kouamé. Kouamé, ça lui a donné un troisième, voire un quatrième poumon. En tous les cas, les Stacks mènent 1-0 après 34 minutes de jeu, le but de Kouamé marqué à la 31e.
Et on revient te voir bien évidemment, Fred, pour la suite de ce 3 Monaco. On retourne à notre Paris-Nice avec Arnaud Souk. Je vous rappelle que c'est la première étape que l'on suit en direct en ce moment. On a parlé de cette bataille annoncée très excitante entre Pogacar et Vingegaard qui donne un petit air de Tour de France à ce Paris-Nice. Côté français quand même, Arnaud, les espoirs reposent peut-être sur un homme, David Gaudu.
Je dirais même sur deux hommes parce qu'on a Romain Bardet quand même qui est là et qui clairement va viser le podium, lui qui a terminé à deux reprises sur le podium du Tour de France et qui continue à être évidemment performant. Mais c'est vrai qu'on regardera évidemment le jeune Breton David Gaudu également et toute son équipe Groupama FDJ. Alors c'est pas un service 5 étoiles pour David Gaudu en termes d'équipier, on va dire, sur Paris-Nice, parce qu'il a notamment son lieutenant de luxe Valentin Madouas qui est aligné sur Tirreno Adriatico, lui qui a terminé deuxième hier d'ailleurs de la classique des Strade Bianche. Mais bon, voilà, David Gaudu va quand même pouvoir se jauger sur cette course Paris-Nice. C'est une course où traditionnellement il n'est pas franchement en réussite, il avait notamment dû abandonner par le passé. Donc voilà, il va essayer de terminer cette fois-ci et pourquoi pas de terminer dans le top 10. David Gaudu, il se fixe pour objectif de se rapprocher le plus possible du podium, tout simplement parce que ça sera son objectif également sur le Tour de France, lui qui a terminé 4e du dernier Tour de France. Donc voilà, attendons David Gaudu, espérons en tout cas David Gaudu et Romain Bardet au top de leur forme, et si tel est le cas, eh bien on pourra légitimement les voir se battre pour une place sur le podium au classement général. Je rappelle qu'en plus de Pogacar, Vingegaard, Gaudu et Bardet, on aura également Simon Yates qui sera présent, l'anglais qui avait terminé l'an passé deuxième du classement général derrière Primoz Roglic. On aura également Dani Felipe Martinez, le colombien, ou encore Maximilian Sherman, double vainqueur par le passé de Paris-Nice.
Et pour ceux qui doutent encore, qui ne veulent pas se brancher sur RMC pour t'écouter sur Paris-Nice, un dernier argument pour eux, c'est qu'il y a un plateau de sprinteurs exceptionnel aussi cette année.
Ah oui, alors mais vraiment exceptionnel. Il y a un Belge que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre à découvrir, qui s'appelle Arnaud Delis, qui est le sprinteur qui monte très certainement la future star du sprint. Il rafle tout sur son passage et il sera présent cette semaine aux côtés notamment de notre Belge Tim Merlier. On aura également Mads Pedersen, l'ancien champion du monde. On aura Sam Bennett, on aura Alexander Kristoff, on aura Magnus Kort Nielsen. On aura également côté français quand même Arnaud Démare qui sera là, lui qui s'est imposé à plusieurs reprises par le passé lors d'étapes sur Paris-Nice. Brian Coquard également, Hugo Page, la jeune génération du sprint français. Bref, vraiment de quoi faire sur les étapes dites plates, même si encore une fois le sprint n'est pas une garantie du tout sur Paris-Nice dans les journées plates, parce qu'il y a tellement de vent qu'il y a aussi beaucoup de cas de coups de bordure comme on a pu l'expérimenter par le passé, un passé relativement récent. Donc voilà, en tout cas ils sont là, si jamais il y a des arrivée massive, ils seront prêts à en découdre les sprinteurs.
Parfait Arnaud, on te retrouve bien évidemment tout au long de cette première étape du Paris-Nice. Merci beaucoup et à tout à l'heure sur RMC. 3 Monaco, le temps, le score avec toi Fred Joly.
37 minutes de jeu, 3 mène 1-0 avec ce but inscrit par Kouamé et Disasi vient de nous tenter une talonnade. S'il avait mis ce but là, franchement c'était le but de la soirée. Je sais pas Manu si tu as vu, mais en tous les cas,
superbe geste.
Superbe geste.
Et puis ça a failli tromper Gallon parce qu'il a pas touché le ballon en voulant faire cette talonnade, et ça a surpris Gallon qui d'une manchette a sorti ce ballon là qui filait au but.
Hein. Les soirées commencent tôt chez Fred Joly. Hein. Le but de la soirée, c'est peut-être un peu tôt à 13h40. Mais c'est vrai que ça a été un but On va dire le but de la journée, voilà.
Décalage horaire.
C'est ça.
On a un décalage horaire dans l'aube.
Ah, normal. Ok, je comprends mieux. Allez, on revient bien sûr dans un instant pour la suite et la fin de cette première période entre 3 et Monaco. 1-0 pour 3 face à Monaco. Vous ne raterez rien, bien évidemment, si vous restez sur RMC, le Paris-Nice également. Et puis, on va parler de Formule 1 aussi dans un instant avec Jean-Luc Roy à quelques heures maintenant du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
Jusqu'à 15h et puis dans un instant on sera avec Jean-Luc Roy à la mi-temps de 3 Monaco pour toutes les infos avant le premier Grand Prix de la saison en Formule 1 à Bahreïn avec la grille de départ et tout ce qu'il faut savoir. Ça sera à la mi-temps de 3 Monaco, mais on y va tout de suite avec Fred Joly. Un match très animé, Fred.
Oui, il reste 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période avec la tentative, juste à côté. Oh, c'était bien vu, Hollande. Il a récupéré un ballon devant dans une défense un petit peu à l'arrêt. Il contrôle, il frappe alors que Gallon était quasiment parti à droite et le ballon est passé à ras du poteau gauche. Une belle occasion monégasque et c'est encore une nouvelle preuve des largesses laissées par moment par cette défense troyenne, Manu.
Ouais, en plus dans l'axe du but, Volant prend le ballon, fait un petit contrôle et frappe. Vraiment, ça passe à ras du poteau. Hein.
C'était presque le but égalisateur, hein, parce que 3 mène 1-0, on le rappelle, hein, depuis le but de Kwame.
Et avec les Troyens en possession du ballon, même si on a l'impression que ça va un petit peu de mieux, mais encore, il y a encore un petit peu de fébrilité hein, dans cette défense troyenne qui est. Et pourtant une défense à 5 hein, Manu, normalement à 5 on est là, on est un bloc, on est solide, on est là pour ça. Il y a deux garçons devant
qui sont chamanés. Ça garantit pas que l'adversaire peut créer des actions et des actions dangereuses aussi. Hein.
Exactement, c'est tout à fait ça. Même si on est 5 derrière du côté de 3, cette défense mise en place 5-4-1 avec deux garçons que sont Kouamé et Chabalin juste devant dans des rôles de récupérateurs, et bien parfois ils arrivent à être un petit peu débordés.
S'il y a 5 Manu Amoros, c'est parfait, mais il faut avoir 5 Manu Amoros dans son équipe. Hein.
Mais il joue plus.
Je parlais du Manu Amoros jeune. Hein. Ceci à 5 François Pinet, en revanche, c'est une défense en bois, je le dis tout de suite. Hein.
Ouais, mais tu vois, la défense troyenne, elle manque d'agressivité. Je trouve qu'elle laisse trop facilement que prendre le ballon, le Monégasque organise le jeu et il n'y a pas assez d'agressivité pour pouvoir vraiment contenir le Monégasque, parce que on a l'impression que s'ils accélèrent, ils peuvent se créer des occasions.
Ouais. Exact. Ils sont parfois trop propre, si l'on peut dire. Elle est trop propre, cette défense. Ouais. Elle est trop plate. On n'y va pas. On n'est pas là non plus pour casser l'adversaire, mais par un moment, faut quand même.
On a l'impression qu'ils ont peur des duels, d'aller un contre un, aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. On a l'impression qu'ils ont peur de ça.
Ils font un complexe d'infériorité par moment et à l'image de Chabalin.
Quand tu mènes 1-0, Fred, quand tu mènes 1-0, il faut essayer de préserver ce résultat. S'ils vont jusqu'au bout, ça serait très bon pour eux au niveau du classement.
Un corner, je crois, pour Monaco, hein, Fred. Hein.
Un corner à suivre, effectivement. Corner, Caio Henrique pour tirer ce corner, sans doute dans la surface de réparation. Il y a du monde, évidemment. Le ballon qui s'élève. Gallon, tranquillement. Il a bien sauté. Il s'est bien emparé de cette balle au-dessus de la tête de Dissadi qui était monté aux avant-postes et qui relance rapidement sur Ripard sur le côté droit. Il s'est décalé légèrement le garçon Ripard, le joueur, ce garçon qui est titularisé à la pointe de l'attaque au bois puisque Mama Baldé est suspendu. C'est Ripard qui a la lourde tâche d'animer l'attaque au bois. Il est bien seul par moment, même si on essaie d'amener des solutions par Lopez d'un côté, Audobert de l'autre, et un ballon qui va aller en touche trop rapidement, en touche mal joué du côté des Troyens. Il aurait peut-être fallu chercher à faire tourner alors qu'il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire et qu'il y aura, je ne pense pas grand chose en temps additionnel. Il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu, ça se passe bien, pas de carton jaune, pas d'arrêt de jeu. Manu, c'est un peu lié, hein. Quand il n'y a pas de carton jaune, ça pas dire forcément, mais souvent c'est que c'est lié, c'est qu'il n'y a pas du rentre dedans, quoi. Il y a pas,
ouais, je crois que Golovin a pris un carton, mais du côté des Troyens, c'est assez propre, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas assez d'agressivité. Aujourd'hui, dans la situation où il se trouve, il faut qu'il soit un peu plus agressif, bien sûr, dans le bon sens du terme, mais un peu plus dans l'agressivité, chercher des ballons, ça serait peut-être mieux pour moi.
Et c'est encore 3 qui est à l'attaque, hein, cette fin de première période.
Exactement, avec Chabalrin, le centre, c'est fort devant le but. Oh là là, c'est décaché. dégagé. Caio Henrique l'a dégagé comme il a pu. Hein. Ce ballon qui est arrivé très fort de la part d'Abdou Conté lui a atterri sur la cuisse. Il a ensuite dégagé le, comme il pouvait. Il n'y avait pas de pression vraiment au poids. Il a pu sortir le ballon de la surface de réparation alors que Rami qui était monté aux avant-postes est en train de piquer un sprint pour revenir dans le rang central, le capitaine et défenseur central de cette équipe au bois, et les Monégasques qui bénéficient de ce de cette faute avec, voilà, on vous le disait, avec hors jeu, ouais, il y a hors jeu, puis surtout il n'y a aucune minute d'arrêt de jeu, c'est sifflé, on vous l'a dit, ça s'est bien passé cette première période, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a rien eu du tout, et le score est pour l'instant à l'avantage des Aubois, et Kouamé a marqué à la 31e, 3 mène à 0.
Eh bien, on a eu un très très beau but et on te retrouve Fred en deuxième période, très beau but de Kouamé. On va le retenir évidemment, Manu, mais surtout on va retenir aussi que Monaco certes a eu des occasions, mais Monaco pour l'instant est mené et ça sent pas forcément très très bon. On rappelle que Monaco reste sur deux défaites d'affilée et ils affrontent une équipe de trois en grande difficulté, donc pour l'instant c'est quand même une petite surprise, non, de voir trois mener.
Oui, c'est une surprise, mais quand tu prends pas le match dans le, par le bon bout, c'est toujours compliqué. On a vu que la possession est monégasque, mais dans l'envie, je pense que Monaco est un peu au-dessus, mais il faut pas sous-estimer une équipe qui est mal classée, une équipe qui veut essayer de s'en sortir. Et Kouamé nous a mis une frappe extraordinaire en pleine lucarne. Donc voilà, maintenant ils sont dos au mur, les monégasques. Il va falloir que appuyer davantage, se créer davantage d'occasion, parce que Gallon, il n'a pas eu non plus des arrêts fantastiques à faire, à part juste une petite manchette quand Dissassi a voulu faire une petite talonnade, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose quand même
au niveau des arrêts de Gallon. Exactement, des occasions pour l'instant qui ne mettent pas trop en danger le gardien troyen, 1-0 pour 3 face à Monaco, et pour l'instant, à la mi-temps, 3 sort de la zone de relégation provisoirement, avec cette 16e place, alors que Monaco reste 4e. Restez bien avec nous, la suite de 3 Monaco, c'est dans un instant, bien sûr. On suit également la première étape de Paris-Nice. Et puis dans un instant, on va parler Formule 1 avec Jean-Luc Roy qui arrive pour nous parler de ce premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Restez bien avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
Il est 13h55, vous êtes sur RMC, dans un instant la reprise, la deuxième période de 3 Monaco, match de la 26e journée de Ligue 1 que l'on suit depuis 13h avec Fred Joly. On sera en direct bien sûr avec lui dès la reprise. Pour l'instant, 3 mène 1 but à 0 face à Monaco, un but superbe de Kouamé. On est toujours avec Manu Amoros, on ira également du côté de Paris-Nice puisque c'est la première étape, et puisque je vous parle de foot aussi, on aura l'occasion dans cette heure-là jusqu'à 15h de vous présenter les matchs justement de 15h de Ligue 1, Toulouse Clermont, Strasbourg-Brest, Montpellier-Angers et Reims-Ajaccio. Il y a un événement cet après-midi aussi sur RMC à partir de 16h, en direct sur RMC, le Grand Prix de Bahreïn, première étape du championnat du monde de Formule 1. La première étape, version 2023, ce sera bien sûr à suivre avec le King. Il est déjà là, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut François, salut Manu. Salut. Bonjour à tous.
Manu, je sais que tu es un grand passionné de Formule 1, donc tu réagis quand tu veux à ce que dit Jean-Luc. Tu peux le contredire aussi si tu n'es pas d'accord.
Ouais.
N'hésite pas. D'abord, Jean-Luc, on a vécu ensemble hier sur RMC les qualifications. Et c'est un moment très important, bien sûr, pour ce premier Grand Prix. Rappelle-nous la grille de départ pour commencer.
Alors, on a eu la confirmation que les Red Bull étaient en forme, ça depuis le début des essais privés, même les trois jours qui s'étaient déroulés à Bahreïn. Max Verstappen décroche une pole, donc la 21e de sa carrière, évidemment la première de cette saison, et pour cause, mais de très peu, hein, devant Sergio Perez. L'écart entre les deux hommes est vraiment limité à 138 millièmes, ce qui est rien, c'est un tout petit peu plus d'un dixième de seconde. C'est dire qu'effectivement, Perez est au niveau. Et puis, il faut souligner que Charles Leclerc, qui est donc sur la deuxième ligne avec la première des Ferrari, l'autre d'ailleurs est à côté, Carlos Sainz, donc première ligne Red Bull, deuxième ligne Ferrari. Charles n'a effectué qu'une tentative afin de conserver un train de pneumatique tendre, neuf, avec lequel il partira. Donc ça peut influer naturellement sur la stratégie et sur la performance en course dans le premier relais. Carlos Sainz, lui, a utilisé ses deux cartouches et il n'est pas loin non plus. Alors, je voulais souligner, derrière, on a donc Alonso, et c'est un peu la surprise ou la confirmation de la bonne forme des Aston Martin. Également, on l'a vu en tête, Alonso, des séances en FP2 et FP3, donc ce qui était quand même étonnant, hein, devant tous les autres. Alors, on le sait, ce sont des séances d'essais libres. Certains pilotes ne cherche pas forcément la performance absolue, mais quand même, c'était une indication et c'est confirmé. Il est sur la troisième ligne. Lui-même dit que c'est un rêve. On sait qu'il arrive hein, chez Aston. Il vient de chez Alpine. À ses côtés, il aura la première des Mercedes, alors là aussi, qui n'est pas loin du tout, George Russell, qui devance une nouvelle fois Lewis Hamilton, septième temps. On a ensuite Lance Stroll, qui relève de blessure, et tu sais qu'il a chuté très lourdement il y a 12 jours maintenant. Il a été opéré, il a des vis dans le poignet, mais ça confirme la forme des Aston Martin, bien sûr, puisqu'il est dans la même écurie que Fernando Alonso. Ensuite, le premier des Français, Esteban Ocon, est neuvième avec son Alpine. Il est à sa place, je dirais, d'après ce qu'on avait pu entrevoir, devant un revenant, Nico Hülkenberg, l'Allemand, qui a été recruté par Haas et qui a largement dominé Magnussen. Voilà pour le début. On soulignera que Pierre Gasly, eh ben, malheureusement, lui est passé à côté de ses qualifs. Il était 17e sur la piste et encore, son temps a été annulé parce qu'il était légèrement sorti de la trajectoire. Donc, il est 20e, il partira dernier. Voilà, donc pour te dire quand même, juste un élément important, les 7 premiers, donc incluant Hamilton, sont inclus en 7 dixièmes. Et pour te donner une référence, eh bien, l'an dernier, l'écart avec le 7e qui était Magnussen, entre Leclerc et Magnussen, 1 seconde 3, on a divisé à peu près par 2 en un an l'écart.
Voilà. Ça promet, ça veut dire que ça promet et que c'est très très serré effectivement. Verstappen, Perez, tu l'as dit en première ligne, Leclerc, Sainz, ça veut dire que la bataille Red Bull, Ferrari, on va la voir dès ce premier Grand Prix et les deux monoplaces sont assez proches.
Sont très proches, alors avec des arguments semble-t-il différents, parce que la raison pour laquelle Charles Leclerc et Ferrari, là c'est pas une erreur de stratégie, c'est un choix, on verra en course s'il est payant ou pas, je pense qu'il sera payant, parce que les pilotes Ferrari avaient constaté qu'il y avait une légère dégradation précisément sur les longs runs, comme on dit, c'est-à-dire en enchaînant plusieurs tours. En l'occurrence, là, le premier arrêt pour changer les pneumatiques doit intervenir, d'après Pirelli, entre le fournisseur de pneumatiques, entre le 12e et le 20e tour, selon justement la dégradation. Ça va être très intéressant de voir après le 10e tour comment se comportent les pilotes en fonction naturellement du départ, parce que il n'est pas exclu qu'un Leclerc soit capable de prendre l'avantage. Il y a exactement 353 mètres entre la grille de départ et le premier freinage. Ça peut être assez pour permettre à la Ferrari, avec des pneumatiques, je le répète, plus performants, de la même qualité, hein, des slicks, mais neufs, de passer devant au moins une, sinon les deux Red Bull.
On rappelle que c'est Charles Leclerc qui s'était imposé l'an dernier à Bahreïn. Nick Verstappen n'a jamais gagné sur ce circuit de Bahreïn, donc ça serait une surprise, enfin pas une surprise, non, de le voir gagner, non, mais non, ça serait une première en tout cas pour le Hollandais, et c'est une donnée aussi importante. Manu, oui. Bon, quand on écoute évidemment Jean-Luc, là il nous a parfaitement lancé la saison, on a envie d'écouter Jean-Luc au commentaire bien sûr tout à l'heure à 16h de ce Grand Prix de Bahreïn. Toi aussi, j'imagine, en tant que passionné, tu attends ça, même si, bon, voir peut-être Verstappen en tête, tu te dis, ah bon, on est reparti peut-être sur les bases de la saison dernière, hein, Verstappen dominant.
Oui, il y a sûrement des chances, mais il faudrait voir avec Jean-Luc quelles sont les modifications qu'il y a eu sur les monoplaces cette année par rapport à l'année dernière, et qu'est-ce qui peut éventuellement nous offrir un duel autre que Verstappen et Leclerc, Jean-Luc.
Écoute, comme tu le sais, Manu, il y avait une modification très profonde du règlement technique, hein, une des plus radicales depuis au moins 20 ans ou 25 ans en Formule 1 l'an dernier, plus ou moins bien appréhendée par les équipes. Red Bull évidemment avait fait un travail magnifique, Ferrari aussi, parce que je rappelle qu'en début de saison, eh bien Leclerc a même été en tête du championnat du monde, donc tout le monde y croyait à cet affrontement. Et puis après, on sait aux erreurs notamment stratégiques coupables, voire techniques, et puis quelques petites erreurs des pilotes, mais qui étaient sous la pression, eh bien effectivement ce duel n'en était plus un. Mais en début de saison, je répète, Ferrari était au niveau. Donc là, le règlement est le même, donc on a procédé, alors il y a 10 points, je vais vous donner les 2-3 plus importants. Le plus important, c'est qu'on a augmenté la garde au sol des monoplaces de 15 mm pour supprimer, tu t'en rappelles Manu, on a beaucoup parlé l'an dernier, l'effet de marsouinage, le fameux porpoising, on dit ça en anglais, c'est-à-dire les monoplaces qui tapaient comme ça sur le sol, parce que l'adhérence maintenant des monoplaces est due beaucoup au dessous, c'est-à-dire à la partie inférieure de la monoplace. On est revenu, en fait, tu sais, l'histoire est un éternel recommencement à ce qu'on connaissait nous très bien dans les années 80. Donc c'est très bien qu'on ait fait ça. Pourquoi on a fait ça? Pour permettre aux monoplaces place de se déplacer et de se suivre plus facilement. Et le but est atteint dans ce Grand Prix-là, celui de Bahreïn l'an dernier, ouais. 131 dépassements en course. Donc on peut s'attendre quand même. Alors je sais bien qu'on garde après l'impression d'une ultra-domination de Verstappen. Ah ben je vous le vends,
en
le
Grand Prix. En termes de points, c'était ça. On va y revenir bien sûr, on revient dans un instant avec toi Jean-Luc sur ce Grand Prix de Bahreïn, je rappelle à 16h. Mais c'est reparti au Stade de l'Aube, 3 face à Monaco, 1-0 pour les Troyens face à l'AS Monaco. On va suivre avec toi Fred la deuxième période. Fred Joly.
Oui, le coup d'envoi de cette seconde période a été donné il y a 25 secondes. Effectivement, les Troyens mènent 1-0 avec le ballon vers Ripars, l'attaquant aligné à la pointe de cette attaque au Boise, mais qui a été devancé par la défense monégasque. Un ballon qui va revenir sur Dizazi, qui était intervenu devant Ripars, qui peut glisser devant, qui trouve Fofana. Fofana qui revient dans l'axe. On est bien en place du côté de Troyes, Matadzo, qui veut chercher dans la profondeur, et l'intervention du capitaine Rami, qui peut relancer tranquillement, proprement, s'applique du côté troyen.
Il n'y a pas eu de changement.
Non, il n'y a eu aucun changement, ni monégasque, ni troyen.
On revient vers toi, bien sûr, dans un instant. On parle toujours avec Jean-Luc Roy de ce Grand Prix du Bahreïn à suivre à 16h en direct sur RMC. C'est un événement, c'est le premier Grand Prix de la saison. On a parlé évidemment des Red Bull, de Ferrari, du combat à venir peut-être entre Charles Leclerc et Verstappen. Il y a peut-être une monoplace qui va se glisser de manière surprise dans les premières places, c'est l'Aston Martin. Et tu l'as dit, c'est vrai que depuis les essais, ça fonctionne bien chez Aston Martin.
Ben, ça fonctionne très bien. Alors, il faut préciser qu'Aston est la seule des 10 écuries engagées à avoir refondu totalement sa monoplace. Ouais, donc, j'ai précisé que le règlement technique avait peu évolué, mais eux, ils ont considéré, à juste titre, évidemment, vu les piètres résultats de l'an dernier, que cette monoplace était ratée. Donc, ils ont remis tout le travail à zéro. Et apparemment, celle-ci, elle est bien née. Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, le sourire de Fernando Alonso à 41 ans après ses deux titres de champion du monde 2005-2006, quand même, ça commence à compter, est suffisamment évocateur. Il le dit lui-même, c'est un rêve de se retrouver en bagarre avec les Ferrari, les Red Bull et devant les Mercedes. Et on peut compter sur la ténacité, le mot est faible, de Fernando Alonso pour exploiter au mieux la monoplace. Puis je l'ai dit, c'est pas seulement un exploit personnel de Fernando, parce que Stroll, même blessé, qui lui n'avait pas pu procéder à cause de cette blessure aux essais préliminaires, est dans le coup. Donc c'est la preuve que la monoplace est bien née. On peut s'attendre vraiment à de très beaux résultats de l'Aston Martin.
On suivra bien sûr la performance de Fernando Alonso, qui est évidemment une légende de la F1 et qui, toi, te permet de te dire que peut-être tu pourrais un jour être dans un baquet de Formule 1 vu l'âge d'Alonso.
Peut-être, oui. Mais Jean-Luc, est-ce qu'il participe à l'évolution de la voiture, les pilotes, comme ça, au début de la voiture, et ils disent ou ils demandent d'avoir des choses spéciales sur la voiture?
Alors, pour le coup, absolument. Alors, évidemment, il est arrivé un peu tardivement en fin de saison dernière. Donc, on sait que la gestation d'une monoplace de Formule 1, ça prend beaucoup de temps. Aston Martin s'est mis à travailler sur cette nouvelle version à partir de l'été dernier, donc évidemment avant l'arrivée de Fernando Alonso, qui a fait suite, on s'en souvient, mais ça a été tôt, puisque Vettel a annoncé son départ, c'était juste avant le break du mois d'août, donc c'était fin juillet. Vettel a dit « je m'arrête », pour plusieurs raisons, entre autres un peu démotivé, on va dire, par le fait que la monoplace n'était pas performante. Et rapidement, Lawrence Stroll, qui est le patron de l'équipe, le papa évidemment de Lance Stroll, a recruté un double champion du monde, Fernando Alonso, qui a décidé d'aller tenter coup. Donc oui, je réponds à ta question, Manu, il a bien sûr influé. C'est-à-dire que, tu sais, les monoplaces, elles sont forcément élaborées pour le pilote qui est supposé être le pilote de pointe. On le dit toujours de Red Bull, évidemment, avec Verstappen. Bah, c'est vrai, évidemment, chez Aston. Quand arrive un double champion du monde, avec son expérience, il a couru pour toutes les plus grandes écuries, Renault et à McLaren, tu t'en souviens, à Ferrari, etc. Donc c'est confiance. Évident qu'il a pesé sur la définition finale de la monoplace.
Et pour l'instant, ça fonctionne. On va voir en course comment ça se passe pour Aston Martin, bien évidemment. 1-0 toujours pour 3 face à Monaco. On y retourne dans un instant, c'est la deuxième période. Les Troyens qui mènent toujours face à l'AS Monaco. On est en train de parler de ce Grand Prix de Bahreïn à 14h06 sur RMC. Je vous rappelle, 16h, le départ avec Jean-Luc Roy, le King qui est là.
Et Denis Chevrier qui me rejoindra.
Et Denis Chevrier qui sera là, bien sûr, pour les commentaires à 16h sur RMC. On a parlé des Aston Martin. Parlons un peu des Alpines qu'on voyait peut-être un peu mieux. Alors il y a du bon et du moins bon. Il y a à boire et à manger. On va le dire comme ça pour nos deux Normands.
C'est tout à fait ça. Alors Alpine a masqué totalement son jeu volontairement. C'est-à-dire que les trois jours d'essai privés que j'évoquais à Bahreïn sur ce même circuit, ils ont fait aucun tour rapide. Donc évidemment ils étaient dans le fond du classement, mais ça ne voulait rien dire. On savait qu'ils cherchaient pas la perf. Ils ont également travaillé comme ils disent eux-mêmes, en testant des réglages extrêmes pour voir la totalité de l'éventail de réglages de la monoplace. On les attendait au virage, au freinage, comme tu veux, pour ces qualifs. Alors Ocon est à sa place, un 9e, il est dans le top 10, donc il a atteint la Q3, on va dire que c'est correct. L'écurie était 4e au championnat l'an dernier. Alors, mais attention à Aston, on vient d'en parler beaucoup, attention à Aston, attention même là à Nico Hülkenberg, 10e juste derrière. Et puis la déception, on l'a évoqué, c'est Pierre Gasly. Bon, il l'a reconnu, il n'a pas d'explication. Il était, toutes les essais, ils étaient au niveau, au même niveau avec Esteban Ocon. Il s'est raté, là, il était, mais je répète, l'écart était très faible, puisque pour se qualifier, là aussi, j'ai quand même un peu bossé la grille pour te donner, voilà, je l'ai retrouvé.
Ah, il a plein de feuilles,
j'en ai partout.
RMC, c'est pour ça. Il
fallait être à 6 dixièmes du meilleur temps dans la Q1. Pour passer en Q2. Mmh. Or, lui, il était 17e, il était à 7 dixièmes et demi, rien du tout.
Il n'est pas
passé. Alors après, on a annulé son temps parce qu'il avait un peu dépassé les limites de la piste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le peloton cette année est tellement serré que tu te rates sur un freinage, t'allumes un pneu, tu sors un poil de la trajectoire et ça y est, tu perds 1, 2, 3 dixièmes et hop, t'es en dehors du créneau. Alors, c'est le cas pour tout le monde, mais c'est ce qui est arrivé à Pierre.
Ouais, donc ça ne veut pas dire qu'il ne réalisera pas une bonne performance.
On va se consoler, il va faire la remontée du jour parce qu'il dernier. Oui. Et moi, je le vois, pourquoi pas, dans les points. Il peut terminer dixième, donc gagner 10 places, pourquoi pas.
C'est le moment des pronostics. Alors attention, il va falloir se mouiller. Dans un instant, on retourne bien sûr à 3 qui mettent toujours 1-0 face à Monaco. Mais pour cette saison de Formule 1, on ne va pas se mouiller sur la saison, mais juste sur ce Grand Prix. Est-ce que tu penses que Verstappen va confirmer sa pole position et va rester devant, ou tu vois bien, pourquoi pas, un podium un peu différent?
Écoute, on va me dire que ce serait le palmarès de l'an dernier, le résultat de l'an dernier. Charles Leclerc devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, voilà, je te le donne. Avec après Russell, Magnussen, etc. Du fait qu'il n'a pas utilisé son deuxième train, je vois bien Charles Leclerc faire un premier relais remarquable, prendre l'avantage sur les Red Bull à la régulière. Alors après, il faudra rester devant, occuper la tête à un moment, absolument, en fin de premier relais.
Occuper la tête à un moment.
Après, il y a des stratégies. Voilà, comme on dit, il y aura sûrement deux arrêts. La stratégie vraisemblable. Et alors, là aussi, les écuries peuvent choisir de monter ou les pneus durs pour faire le relais du milieu, si tu me passes l'expression, le stint du milieu, et puis repousser donc le dernier arrêt. Et là, au choix de l'écurie également, ou tu montes des médiums et tu fais une quinzaine de tours, ou tu montes carrément un train de slick si tu en as gardé un. Et lui en a gardé un, encore une fois, en meilleur état. Donc, la stratégie peut être très intéressante.
Puisqu'on voit bien que c'est très difficile à pronostiquer ce premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Merci beaucoup Jean-Luc.
C'est un plaisir.
16h évidemment.
Soyez là à 16h.
16h, ne ratez pas bien évidemment le Grand Prix de Bahreïn à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Ça sera avec Simon Dutin, donc avec toi Jean-Luc Roy, qu'on le retrouvera toute la saison pour les Grands Prix de Formule 1 sur RMC. Vous en avez l'habitude. Manu, évidemment, tu seras branché à 16h. En attendant, tu as du boulot parce que 3 Monaco, ça continue. 26e journée de Ligue 1, Fred Joly, on y retourne. 1-0 toujours pour 3 face à des Monégasques qui tentent le coup, mais pour l'instant qui se heurtent à la défense royale.
Ah ouais, complètement Manu, t'as raison. Ils essayent, mais on voit pas comment ils pourraient, avec ce qu'ils nous proposent, déstabiliser cette arrière-garde troyenne. Manu, t'as vu, ça manque de créativité, on va dire.
Ça manque de jeu collectif, ça manque de mouvement, ça manque d'appel en profondeur. On sait que Volan et Ben Yedder ne sont pas de joueurs de profondeur, donc il faudrait peut-être utiliser Golovin, mais dans un espace un peu plus complet. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour les Monégasques. Les Troyens jouent bien le coup.
Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ils viennent d'avoir la frappe. Oh, elle était belle, cette frappe de Dober. Elle a rebondi juste devant Nubel qui s'était bien couché. C'est le genre de ballon un petit peu piège, qui peuvent rebondir quelques centimètres devant le gardien. Et là, il a été bien concentré, le portier monégasque, car la frappe était plutôt pas mal. Elle était osée. Il fallait la tenter, Manu.
Oui, il fallait la tenter, mais l'erreur du défenseur monégasque, c'est que il sait que l'attaquant il est droitier, donc amène-le sur son plutôt pied droit pour qu'il vienne sur son pied gauche, dans le pied le plus faible. Donc il aurait dû mieux se situer, mais la frappe était belle et elle aurait pu surprendre éventuellement Nuber.
Et on voit des beaux mouvements troyens. Hein. C'est vrai qu'ils ont pris confiance très clairement, alors qu'il reste, on le rappelle, sur 5 défaites consécutives. Et là, c'est pas une équipe dans le doute, en tout cas, ce que l'on voit sur le terrain en ce moment, Fred.
Non, et puis ils sont revenus des vestiaires avec un peu plus d'envie. On a l'impression ils ont d'entrée décidé de jouer un peu plus haut, de s'installer dans le camp monégasque. Après tout, c'est eux qui mènent au score, c'est à eux aussi d'imposer leur jeu. Et puis face à eux, c'est Monégasque qui essaie. Et on l'a vu avec Ben Yedder il y a quelques minutes, qu'on avait cherché dans la profondeur. Il a tenté un contrôle hyper difficile en pleine course, le pied très très haut, et ça n'a pas inquiété Gallon qui a pu capter cette balle. Les Troyens mènent 1-0 et sont en train de nous montrer qu'ils sont capables de tenir tête à cette équipe de Monaco qui certes reste sur une défaite en championnat face à Nice, mais qui avait jusque-là, mis à part l'élimination en Coupe d'Europe, proposé de bien belles choses. Attention tout de même à cette tentative, la tête troyenne pour Yannel Danger, c'était bien vu, hein. Il avait bien joué Caillou et Enrique, il avait bien joué Elko, il avait tenté de centrer fort devant le but de Gallon et ça a été dégagé par la tête de Salmier qui était bien concentré. 3 mène 1-0, 56 minutes de jeu au stade de l'Aube.
On va en profiter pour aller voir Arnaud Souk qui suit pour RMC Paris-Nice. C'est la première étape, Arnaud. Où on en est?
Absolument. La première étape de ce Paris-Nice entre La Verrière et La Verrière dans les Yvelines. Une première étape de 169 km 500. Il y avait 154 partants au départ de cette étape. Et parmi ces 154, deux ont réussi à prendre la poudre d'escampette, parmi lesquels un Français, en l'occurrence Paul Ourselin, première donc échappée de cette 81e édition de Paris-Nice. 3 minutes 20 d'avance pour les deux hommes sur le peloton à 122 km de l'arrivée, dans un temps toujours aussi grisâtre. A priori, le vent n'aura pas un rôle majeur à jouer, de ce qu'on voit en tout cas ici sur la ligne d'arrivée lors de cette première étape. À noter que les deux hommes de tête ont parcouru la première heure de course à 40,5 km/h de moyenne. On est passé notamment il y a quelques instants par Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Parfait Arnaud, on te retrouve bien évidemment tout au long de cette première étape. Retour à 3 Monaco, 26e journée de Ligue 1, toujours 1-0 pour les 3 Troyens qui tiennent face à des Monégasques très décevants, Fred et Manu.
Ouais, décevant et un petit peu dépité hein, par moment. On l'a vu avec Aguilar qui avait un ballon en profondeur bien protégé par Abdou Conté, et de dépit, voilà, Aguilar a poussé Abdou Conté dans le dos. Bon, tout de suite il a été défilé un coup de main, car Aguilar, on sait bien que c'est un garçon fort sympathique, il a été le relever en s'excusant là, mais on a bien vu que c'était un peu une attitude de dépit des Monégasques qui ne savent pas trop comment s'y prendre face à ces Troyens qui mènent 1-0. Et ce merveilleux but inscrit par Kouamé à la 31e, on va de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà Manu, on fait tourner, on va sur les côtés, oui. Mais on va pas de l'avant.
Ben, c'est ça le problème, c'est que pour marquer des buts, il faut aller de l'avant, il faut essayer qu'il y ait des mouvements, et on voit les joueurs monégasques qui sont assez statiques, qui proposent pas, qui redoublent pas au niveau des passes, qui font pas des 1-2. Je sais pas, ils ont du mal dans le collectif, ils ont du mal, et dans les occasions aussi, parce qu'ils s'en créent vraiment pas beaucoup, hein.
Ah non, du tout, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a vraiment pas eu grand chose. Hein. Gallon n'a pas pour l'instant passé une après-midi bien compliquée.
Ouais, alors Fred, on voit beaucoup Golovin sur son côté, moins d'y attaque sur son côté, qui provoque moins. Donc il faudrait que peut-être ces joueurs-là se mettent à dribbler, parce qu'on voit souvent les joueurs de côté qui ne dribblent plus, qui ne provoquent plus l'adversaire direct, qui prennent le ballon, oh, c'est bloqué, je redonne derrière, on repart de l'autre côté. Non, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'y mettent à provoquer et à les dribbler pour créer des situations.
On voit quelques joueurs de Monaco qui s'échauffent, notamment Mbolo, évidemment, et ça passera peut-être par les remplacements, un retour de Monaco dans cette partie. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. 3 qui mènent 1-0, et je ne sais pas si on l'a dit, messieurs, on va rappeler quand même pour tous ceux qui nous écoutent que 3 avait battu Monaco à Louis II au match aller, 4-2. Donc, perdre deux fois contre 3 dans le même championnat pour un candidat à l'Europe, ça fait tâche, hein.
On n'est pas là encore, François.
Mais bien sûr, oui. il reste encore pas mal de temps. Bien évidemment, mais tu sais comment sont les journalistes.
Tu vas enfoncer, toi, les monégasques déjà.
Pour l'instant, ils me déçoivent, mais je pense qu'ils déçoivent tous les supporters de l'AS Monaco. En revanche, bravo à Troyes qui fait le match parfait pour l'instant. Effectivement, on revient dans un instant avec toi, Manu, avec Fred Joly, Troyes Monaco. Il va se passer encore des choses, vous l'avez entendu, Manu. Hein, vous restez avec nous, hein, Manu l'a dit. Il va se passer des choses, toujours 1-0 pour Troyes pour l'instant, face à l'AS Monaco. On suit également, bien évidemment, Paris-Nice. Et puis, on vous présente aussi les autres matchs. Les matchs de cette 26e journée de Ligue 1 à 15h. On suit, on vous présente toutes ces rencontres dans un instant. Restez avec nous sur RMC.
RMC Intégral Sport.
François Pinet.
14h19, ravi de vous retrouver pour l'Intégral Sport. On lance cet après-midi de sport et c'est plutôt bien parti avec Troyes qui mène face à Monaco 1-0. On y retourne dans un instant. Il y a Paris-Nice, la première étape que l'on suit également en direct sur RMC. Et puis à 16h, ne manquez pas l'événement, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 avec Jean-Luc Roy au commentaire. Ça sera à partir de 16h à Bahreïn. Dans un instant également, on vous présentera les quatre autres rencontres de la 26e journée de Ligue 1 du jour. Toulouse-Clermont, Strasbourg-Brest, Montpellier-Angers, Reims-Ajaccio. Une journée de Ligue 1 lancée donc par Troyes qui mène face à Monaco 1-0. Fred Joly.
63 minutes de jeu. Effectivement, cette équipe de Troyes qui mène 1-0 et une équipe de Monaco qui a vraiment du mal à réagir. On cherche systématiquement Ben Yedder. On l'a vu il y a quelques instants avec Golovin qui a cherché Ben Yedder. La frappe enroulée du pied droit de Ben Yedder qui est passé juste à côté. On s'appuie beaucoup sur Ben Yedder. Autant vous dire que Voland est un petit peu transparent dans cette rencontre. Il a vraiment du mal à amener des solutions, à amener du soutien à Ben Yedder. Et c'est donc logiquement que la défense troyenne tient plutôt le choc et mène 1-0 alors qu'il va y avoir du changement de part et d'autre.
Ah oui, coaching obligatoire, Manu, là.
Oui, complètement. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut que Clément change quelque chose, sinon ils vont perdre ce match-là. Donc Voland, comme disait Fred, n'a pas été convaincant, donc il devrait sortir là et Mbolo prendre sa place. À moins qu'il nous fasse sortir Ben Yedder. Non, mais
c'est une mauvaise idée.
Du changement. Comment ?
Ça serait une mauvaise idée de sortir Ben Yedder, parce que c'est le seul qui se bouge un peu.
Hein. Exactement, ouais. Mais tu sais, avec Clément, il faut se méfier. Des fois, il nous surprend.
Ouais, il surprend même ses joueurs, c'est ça le problème.
Ouais, c'est ça.
c'est ça le truc. Et donc, il va donc faire entrer logiquement, hein, on disait Mbolo du côté de Monaco, et on devrait également avoir l'entrée de Jacobs, qui va faire également son entrée sur la pelouse du Stade de l'Aube, alors que Baldé, hein, pas l'attaquant puisqu'il est suspendu, mais Thierno Baldé, les défenseurs, et Porozzo, deux défenseurs, vont également faire leur entrée sur la pelouse du côté de Troyes.
Tu as raison de rappeler la suspension de Mama Baldé, meilleur buteur du club troyen depuis le début de la saison avec 10 buts, et malgré son absence, eh bien Troyes mène toujours 1-0 face à Monaco. On vient te voir dans un instant. On profite des changements et du coaching en ce moment pour retrouver Timothée Mémon au Stade Auguste Delaune. Salut Timothée.
Salut François, salut Manu, salut à tous.
Grâce à Ajaccio, c'est tout à l'heure, 15h, à suivre bien sûr en direct sur RMC. Comme le veut la tradition dans cet Intégral Sport, tu as une minute pour nous dire pourquoi on doit suivre cette rencontre Reims-Ajaccio, Timothée.
Vous devez suivre cette rencontre tout simplement parce que Ajaccio a encore les moyens de s'extraire de la zone de relégation, de se maintenir. Ce sera difficile certes, mais ils ne sont pas morts, les joueurs de l'AC Ajaccio. Ils ont des possibilités et ça passe par des matchs comme ceci face à des équipes certes en forme, une équipe de Reims, mais une équipe qui a un système de jeu proche du sien. Pour le stade de Reims, il y a la possibilité de s'offrir une fin de saison intéressante. Ils sont actuellement 10e du classement. C'est une équipe qui a la 5e meilleure défense. Et puis pour ce qui est du spectacle, n'hésitez pas, c'est le bon endroit. Les trois derniers matchs entre cette équipe de Reims et celle d'Ajaccio, c'est terminé par des victoires rémoises avec 3 buts. Ouais, mais sur les 3 derniers matchs, à chaque fois c'était 1-0.
Oui, c'est pas mal vendu, effectivement. Et en plus, je viens pas à ton secours parce que tu le sais, mais il y aura un hommage particulier à Reims, hein, aujourd'hui.
Hommage particulier, effectivement, à Reims. Ça a déjà commencé avec une fresque qui a été présentée à l'entrée du stade Auguste Delaune à l'image de Juste Fontaine, bien évidemment, qui a gagné 3 titres de champion de France, une Coupe de France avec cette équipe de Reims à l'époque de la grande hégémonie du stade à Rémois. On a également mis dans le rond central une grande bâche avec le portrait de Juste Fontaine. Et puis, c'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. Ils ont eu l'autorisation de la part de la LFP. Eh bien, le visage de Juste Fontaine a été tamponné sur les poteaux des cages, en espérant que ça porte chance à Yevan Diouf.
Ah oui, alors ça, c'est une image qu'on a envie de voir. On le verra sans doute sur rmcsport.fr. Bien évidemment, ces visages de Juste Fontaine sur les poteaux. Merci beaucoup, Timothée. À tout à l'heure, 15h pour ce Reims-Ajaccio. Un mot, Manu, quand même, de cette équipe surprenante. Est-ce qu'elle te surprend, toi, cette équipe rémoise, invincible?
Oui, elle surprend, mais elle surprend aussi par la qualité de son jeu. Donc, c'est ça qui est bien dans cette équipe-là, c'est qu'il y a un schéma tactique, il y a un schéma technique, il y a un schéma collectif qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce niveau-là et à être performants dans ce championnat. Puisqu'ils sont dixièmes avec 37 points, un club qui vise au départ le maintien, donc ils sont pas très loin encore, mais qui font vraiment un très bon championnat.
Exactement. Reims Ajaccio à suivre à 15h. Dans un instant, on retourne au stade de l'Aube. Pour l'instant, 3 mène 1-0 face à Monaco. On va aller direction Toulouse. Toulouse qui reçoit Clermont avec Valentin Jamin en direct du stadium. Salut Valentin.
Salut François, salut Manu, salut à tous et à tous.
Même principe que pour Timothée, une minute pour nous convaincre de suivre ton match.
Eh bien, venez au stadium un petit peu pour les mêmes raisons, parce que ici on devrait voir beaucoup beaucoup de spectacles. Toulouse, c'est peut-être l'équipe justement spectaculaire en France en 2023. 38 buts marqués toutes compétitions confondues depuis le début de l'année, ça fait 2,92 buts par match. C'est le meilleur ratio en Europe pour les Toulousains, qui viennent en plus de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France cette semaine en mettant 6 à Rodez. Donc a priori, si vous venez ici, vous devriez voir des buts. En plus, Toulouse n'a pas une très bonne défense, 45 buts encaissés, donc généralement ça fait du spectacle. Et en face, Clermont a été un petit peu en panne offensivement récemment, un seul but marqué sur les 6 derniers matchs. Il y a beaucoup d'absents aussi derrière, donc va falloir réenclencher la machine du côté des hommes de Pascal Gassien, mais ça pourrait être un petit peu friable. On sait que les Toulousains aiment profiter de ça. Ici, il y a du soleil, il y a beaucoup de public, il y a des entames à chaque fois exceptionnelles de la part des hommes de Philippe Montagnier qui veulent intégrer le top 10. Donc si vous voulez voir du beau jeu, du spectacle et des buts, venez au stadium cet après-midi.
Ah oui, alors venir au stadium, ça sera un peu compliqué, hein, parce que tout le monde n'habite pas dans la région.
Venez me voir.
Voilà, on peut t'écouter à la radio, c'est déjà pas mal, hein, à partir de 15h. Le soleil, c'est pas un argument, du coup, hein, à la radio, hein, ça marche pas. Mais merci quand même et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Pour ce Toulouse, Clermont, on va parier tout de suite sur ce match.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Johan Guillet de la rédaction des Paris. Salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Les cotes de ce Toulouse-Clermont.
Forcément, elles sont plutôt déséquilibrées, François, même bien déséquilibrées. Toulouse est largement favori à domicile. 1,68, la victoire du TFC. On quadruple la mise pour un match nul. On quintuple pour un succès de Clermont. Messieurs, tout a été dit concernant ce match. Toulouse est impressionnant cette année. Il y a beaucoup de buts au stadium. Reims n'est pas en forme. Je vais donc miser sur Toulouse qui gagne avec un but de Dalinga. C'est coté à 2,90. Et si on y ajoute dans un My Match plus de 2,5 buts dans le match, ça monte à 3,80.
Ouais, Clermont qui n'est pas en forme face à des Toulousains en grande forme au stadium. Manu, quel est ton avis?
Je voulais prendre le buteur d'Alinga, mais il me l'a pris, donc je vais changer. Je vais prendre le buteur Aboukal, parce qu'Aboukal il marque en ce moment, d'Alinga aussi. Donc victoire de Toulouse et buteur Aboukal. Alors, plus 1,5 nombre de buts.
Alors déjà, Toulouse plus Aboukal, on monte à 3,55. Et si j'y ajoute en nombre de buts plus de 1,5 but, on monte à 3,85.
Bon. Un peu moins que toi. Hein.
Oui.
Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Merci, pas mal. Johan, on vérifiera ça. Et d'autres paris de la Dream Team à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
14h28 sur RMC. Un coup franc troyen intéressant. Fred Joly, 3 face à Monaco, 1-0 pour 3.
71 minutes de jeu effectivement, mais attention, il faut rappeler que les Monégasques viennent de se créer deux belles occasions. Il y a eu tout d'abord la frappe de Matadzo qui a été sortie du bout des gants par Gallon, et puis la passe en pivot de Mbolo vers Ben Yedder, et le ballon est passé au-dessus du but troyen. Les Troyens mènent 1-0, mais attention à cette fin de rencontre, les changements semblent faire du bien à cette équipe Monégasque, puisque Jacobs, tu le disais Manu, a remplacé Diata qui n'était pas très très bon, et Voland est sorti, il a été remplacé par Mbolo qui n'était pas très très bon non plus, notre ami Voland, et ça semble avoir redonné un petit coup de sang à cette équipe de Monaco, Manu. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Il me semble que Matazo est passé sur le côté droit, Jacob un peu plus dans l'axe, et il y a une dynamique qui est un peu plus importante. Il y a un pressing plus haut, il y a un peu plus de mouvement, donc espérons que les Monégasques puissent profiter de l'entrée de ces deux joueurs. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres d'ici la fin, si le score il en reste là, il reste là jusqu'à 5-10 minutes de la fin.
Effectivement, 1-0 en tout cas pour 3 face à Monaco. On retourne dans un instant au Stade de l'Aube avec Fred Joly, mais tout de suite sur RMC comme tous les dimanches à 14h29, c'est l'heure du défi hippique.
RMC, le défi hippique
avec Dimitri Blanc-L'œil aujourd'hui. Salut Dimitri.
Salut, bonjour tout le monde. Bon, bah on part pour le défi hippique, hein, direction Auteuil aujourd'hui.
Très bien.
Voilà. Est-ce que tu as regardé les partants, toi ?
Pas encore.
Pas encore, ça y est, problème de taille. Le quintet du jour qui sera commenté en direct sur RMC, c'est dans 45 minutes à 15h15. Ce sera une épreuve en haie. Il y a 18 concurrents qui vont s'affronter, le parcours 3600 mètres. On va accueillir tout de suite au 32-16. C'est Marc-Antoine qui est avec nous. Salut Marc.
Salut Dimitri.
Alors bienvenue à toi. Il me semble que tu es en direct du ski, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Bon,
c'est ça.
Tu t'es mis sur le côté, hein. Fais attention quand même.
Ouais. C'est bon, c'est bon.
Bon, alors, t'as analysé le quintet, t'as choisi qui dans cette épreuve, toi, Marc ?
Alors, moi, je pars sur le 14 Fundam. Mm-hmm. Tout simplement, il a fait. Donc, c'est le pensionnaire d'Arnaud Chaïchaïe, il a fait une bonne rentrée à Bordeaux. Je pense que c'est un cheval qui a un gros potentiel, et là, dans ce handicap, il est bien placé au poids. À mon avis, il peut faire un coup.
Ok, bah écoute, moi j'ai choisi le numéro 7, c'est Miss Q dans cette épreuve. Voilà, tout simplement parce que la régularité est pour elle. Je pense qu'elle peut faire une bonne performance. Donc je rappelle la règle pour ceux qui nous écoutent. Si ton numéro 14 termine devant le numéro 7 dans le quintet du jour, tu reviendras une nouvelle fois demain et tu augmentes ta cagnotte au fur et à mesure. Alors, je suis pas allé voir Manu d'ailleurs, est-ce que Manu Amoros, Manu, est-ce qu'il a étudié le quintet ? Salut Manu.
Ouais, je regardais un peu, salut. Moi je partirai sur le 8 Hispano Star.
J'adore parce qu'il a étudié un peu, mais il a toujours un cheval quand même, Manu.
Bah oui, il faut. Hein.
Il en a toujours. Effectivement, on rappelle que Manu Amoros.
Alors dis-moi, c'est pas mal ou c'est bien ? Qu'est-ce qu'on pense ? J'ai vu qu'il avait gagné à Cagnes. Il est en forme, mais au niveau, il a pris 3 kilos de plus, non, je crois ?
Effectivement, et Manu, il est bien informé. Hein. Il a tout avec lui. Bah après, bon, bah une monde de catégories, effectivement, quand on a du poids comme ça en plus. En plus, l'obstacle, c'est assez difficile. Aujourd'hui, c'est un quintet assez ouvert. Donc on t'en voudra pas si le numéro 8 n'est pas à l'arrivée. Hein. Moi non plus, je sais pas si le numéro
8.
Bah, tu reviens demain, tu augmentes ta cagnotte. Ok, bon voilà, là, je le répète, hein, 15h15, le quintet. Donc le Manu a choisi le 8, moi j'ai choisi le 7 et le numéro 14 pour Marc-Antoine. Allez, à tout à l'heure.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Merci Dimitri. Le temps, le score entre 3 et Monaco, Fred Joly, 26e journée de Ligue 1.
75 minutes de jeu, 3 mène 1-0 avec un but inscrit en première période par Kouami.
Et puis on va aller pour la première étape du Paris-Nice retrouver Arnaud Souk. Arnaud Souk, où on en est ?
On en est actuellement à 110 km de l'arrivée, encore 110 km à parcourir pour les deux hommes de tête. Je vous rappelle que Paul Ourselin, français, fait partie de cette première échappée de la 81e édition de la course au soleil. Il est accompagné de Jonas Grégard, le Danois, de 55 d'avance au dernier pointage, de 40 même d'avance au dernier pointage sur le peloton des sprinters, le peloton des favoris. Je rappelle que Jonas Vingegaard, le vainqueur du dernier Tour de France, est aligné cette année sur Paris Nice pour la première fois, de même que Tadej Pogacar, son dauphin lors de la dernière grande boucle. On a également côté français Romain Bardet, David Godu. On a plein de sprinteurs à suivre puisque cette étape promet tout à l'heure très certainement d'arriver au sprint. Je vous en donne quelques-uns. L'Australien Michael Matthews, l'Irlandais Sam Bennett, Arnaud Démare côté français ou Brian Cocard. On pourra suivre également le Danois Mads Pedersen, Tim Merlier et Arnaud Dely, les Belges, ou encore Kisbol, le Néerlandais. Et puis on sait jamais, Ivan Garcia Cortina, espagnol, qui est capable lui aussi de venir se mêler dans des circonstances particulières à la lutte, mais ce ne sont pas les seuls. Mais en tout cas, ça vous donne déjà une jolie idée du joli plateau qui est aligné et qui va donc se disputer tout à l'heure dans deux petites heures désormais la première victoire d'étape donc de ce Paris-Nice. Je vous rappelle que le tenant du titre, Primoz Roglic, de Slovène, n'est pas là, lui qui est aligné en Italie sur Tirreno Adriatico à partir de demain.
Ah, tu en as des choses dans ta besace, Arnaud, hein.
Ah, ça et encore, j'ai pas sorti tout ce que j'avais dans la besace, mon cher François.
La suite de cette première étape de Paris-Nice avec toi Arnaud Souk, la fin aussi de 3 Monaco, toujours à 0 pour les Troyens, et puis on vous présente Strasbourg face à Brest et Montpellier-Angers, c'est dans un tout petit instant avec Manu Amoros dans l'Intégral Sport sur RMC. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
François Pinet.
avec Manu Amoros depuis 13h dans l'intégrale sport. Je vous rappelle qu'à 16h, le Grand Prix de Bahreïn est à suivre en direct et en intégralité sur RMC. C'est la première manche de cette saison de F1 2023 qui débute cette semaine. On suivra également, bien sûr, à 15h les matchs de Ligue 1. Dans un instant, on sera d'ailleurs à Strasbourg pour vous présenter Strasbourg-Brest et à Montpellier pour vous présenter Montpellier-Angers. Mais la 26e journée de ce dimanche débute par 3 à Monaco. Et pour l'instant, Fred Joly, ça tient pour les Troyens qui mènent toujours 1-0 face à Monaco.
Ça tient, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les... Je vois qu'ils sont en train de vivre une fin de rencontre sous pression avec des monégasques du côté de Philippe Clément. On a fait quelques réajustements et on sent que cette équipe monégasque, elle est en train vraiment de poser des problèmes à cette équipe troyenne qui certes mène au score avec ce but de Kouamé, mais ça devient compliqué. Les Troyens sont vraiment en train de reculer. 79 minutes de jeu, il va falloir tenir jusqu'au bout si enfin les Aubois veulent renouer avec la victoire. Pour l'instant, il mène 1-0.
Oui, 3 qui restent sur une série, on l'a dit, de 5 défaites consécutives. La dernière victoire à domicile remonte au 28 août contre Angers. Ça ferait beaucoup de bien à cette équipe troyenne qui, pour l'instant, au classement, si ça tient, eh bien sortirait provisoirement de la zone de relégation et serait 16e, alors que 3 pour l'instant est 19e avant la rencontre face à Monaco. Du côté de Monaco, je veux bien être gentil, Manu, mais pour l'instant, ouais, c'est franchement pas terrible. Ils ne font pas ce qu'il faut, les monégasques, pour revenir dans la rencontre.
Il y a un certain mieux, je dirais. Oui. Et tu es d'accord avec moi. L'entrée de Jacob, l'entrée de Diop, l'entrée d'Embolo, ça a donné une certaine dynamique supplémentaire.
C'est la moindre des choses quand tu t'appelles Monaco.
C'est la moindre des choses, c'est vrai.
Le voilà. Le but monégasque après petit flottement une nouvelle fois. Dans la surface de réparation. Et Ben Yedder, il en aura eu des occasions. Ben Yedder, il a bien subi l'occasion emmenée par Mbolo, me semble-t-il. Mais Ben Yedder avait bien suivi, lui qui, il y a quelques minutes, avait manqué de 3 cm un ballon de la tête alors qu'il était seul devant Gallon. Et bien là, il a bien suivi le ballon avec un peu de réussite. Lui est revenu dans les pieds. Il a pu ensuite placer le plat du pied et permettre à Monaco d'égaliser après 80 minutes de jeu, un partout entre Troyes et Monaco.
Et je l'ai dit, Manu, que l'entrée d'Embolo avait fait quand même la différence. On le voyait que Monaco était bien mieux.
On parlait tout à l'heure, le manque d'agressivité des Troyens, mais on regarde comment ils ont là. Ils laissent Embolo faire un contrôle orienté sans l'embêter réellement. Et après, Ben Yedder, il ne doit jamais récupérer ce ballon. À 2 contre 1, jamais il doit récupérer ce ballon. Il est très opportuniste, Ben Yedder. Il est là, il est présent. On sait que c'est un chasseur de but devant, un peu comme à l'époque d'Elionis. Je ne sais pas si tu vois qui je veux dire, François.
Bien sûr,
il était présent.
Oui. Je connais la réputation d'Elionis. C'est vrai que je ne l'ai pas vu jouer, j'avoue. 15e but pour Ben Yedder en Ligue 1, pour Wissam Ben Yedder, indispensable à cette équipe de Monaco, le capitaine qui sort Monaco d'un mauvais pas, même si pour l'instant le match nul, ça ne plairait pas, j'imagine, Fred, à l'AS Monaco qui veut aller chercher cette victoire et provisoirement cette deuxième place.
Ah, évidemment, les monégasques qui ont envie de se rassurer, de se relancer, qui étaient sur une bonne dynamique avant cette mésaventure face à Nice, cette défaite 3-0, la mésaventure, l'élimination également en Coupe d'Europe. Donc peut-être que les monégasques ont besoin de retrouver une certaine confiance, de retrouver une certaine sérénité, et ça va certainement passer par une victoire. Et puis du côté de Troyes, on court après cette victoire depuis tellement de temps. Ajaccio, les Troyens menaient 1-0, ils se sont finalement inclinés. Voilà, l'entraîneur le disait, l'équipe a progressé, mais les résultats ne suivent pas. Ben on se demande quand ils vont arriver, les résultats, car pour l'instant, Patrick Kistambo a des beaux discours, mais ça n'avance guère.
Oui, mais Fred, tu ne peux pas jouer 15 minutes quand tu t'appelles Monaco. Tu es obligé de jouer tous les matchs à fond et dès le début. Ils se sont laissés un petit peu endormir complètement par cette équipe troyenne. Ils n'ont pas joué en première mi-temps. Donc, s'ils veulent avoir des ambitions, il faut qu'ils jouent 90 minutes, voire plus.
Est-ce que le schéma mis en place par Troyes les a un petit peu perturbés, ou c'est un peu un mélange des deux, eux qui n'avaient d'envie et d'autres?
Ben non, je pense pas. Je crois que c'est à eux à s'adapter au fonctionnement de l'équipe adverse, à trouver des solutions par le mouvement, par le collectif. Et ils n'ont pas su le faire parce que Troyes était bien en place. Ils ont profité des largesses aussi de Monaco pour contre-attaquer et marquer ce but.
Voilà, il y a hors-jeu. Non, j'allais t'annoncer, excuse-moi Manu de t'avoir coupé, car il y avait un but de Ben Yedder, mais apparemment il serait Ah, c'est Golovin qui est hors jeu, d'accord. Ouais. Ok, parce que Ben Yedder vient mettre le plat du pied et c'est au départ de l'action, donc il y aurait eu quelque chose. Bon, en tous les cas, le but est refusé. Voilà, je te laisse finir, Manu.
Non, tout ça pour dire qu'il faut que Monaco ait beaucoup plus d'ambition que ça, mais à partir de 90 minutes et pas un quart d'heure de la fin.
En tout cas, mais toujours un but partout, le but a été logiquement refusé pour un hors-jeu de Ben Yedder.
De
Golovin, il est devant le ballon, Wissam Ben Yedder, même si ça va être contrôlé. Pour l'instant, un but partout entre Troyes et Monaco. Comme promis, on continue de présenter les matchs de 15h. On va tout de suite prendre la direction de la Méno avant Strasbourg-Brest pour retrouver Sébastien Ruffet. Salut Sébastien.
Salut tout le monde.
Et tu as une minute, salut, comme tes petits camarades, pour nous dire pourquoi il faut suivre ce match, ce Strasbourg-Brest.
Très simple, parce que c'est le match de la bascule, tout simplement. Voilà, deux équipes qui sont à la lutte l'une contre l'autre pour ce maintien. Racing 15e, 22 points. Brest 18e, 20 points. On le sait, hein, c'est la guerre dans ce bas de tableau. Et là, ça peut conditionner pour une équipe comme pour l'autre la fin de ce championnat, puisque Strasbourg pourrait prendre un petit peu le large. Enfin souffler un petit peu dans ce championnat. Et Brest pourrait, après trois défaites consécutive, sortir pourquoi pas de la zone rouge si les autres scores lui étaient favorables, et se donner également un petit peu un nouveau dynamisme. Voilà pourquoi il faut suivre ce match, parce que l'une de ces deux équipes peut avoir très mal au crâne à la fin de cette partie, comme l'autre peut aussi pouvoir souffler un petit peu. On attend évidemment de voir si Strasbourg sous Antonetti va rester invaincu. Voilà, deux matchs pour l'instant, 4 points. Est-ce qu'un troisième match avec des points à la clé pour Fred Antonetti pour redonner ce dynamisme et ce nouvel élan à ces Strasbourgeois? Voilà pourquoi il faut absolument suivre ce match.
N'était pas en jeu, Ben Yedder. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. On a jeté un œil du côté de la vidéo. Et finalement, cette passe de Golovin pour le pied de Ben Yedder, après le visionnage de la vidéo, a été validé. Et Monaco mène 2-1. Le doublé de Ben Yedder.
Ben Yedder indispensable, Manu. Ben Yedder qui va peut-être sortir Monaco d'un piège là.
Ah ouais, complètement. On pensait vraiment qu'il était hors jeu. Ça a dû se jouer à vraiment pas grand chose. Il est encore là, renard de surface. Ouais. Et il est toujours présent, même quand Clément ne le fait pas jouer, il râle. Mais comment se passer d'un joueur comme ça où à tout moment il peut te marquer un but et délivrer ton club?
Oui, on rappelle qu'il était d'ailleurs sur le banc au début de la rencontre contre Nice, la semaine dernière, lors de la défaite 3-0. Bon, il est rentré en deuxième période, mais il y avait déjà 3-0. C'est vrai qu'on se demande comment on peut se passer d'un Ben Yedder qui marque ici donc son 16e but depuis le début de la saison en Ligue 1. Wissam Ben Yedder qui permet à l'AS Monaco pour l'instant de mener 2-1. Et pour l'instant, Monaco est donc deuxième du classement provisoirement avant le match de Marseille face à Rennes ce soir, que l'on suivra bien sûr sur RMC à 20h45, ce Rennes-Marseille. On remercie Sébastien dans un instant. À partir de 15h, on le retrouvera, Sébastien Ruffet, pour Strasbourg-Brest. On va accueillir Julien Landry qui est à la Mosson pour Montpellier-Angers. Salut Julien.
Salut François, salut Manu, Julien. Salut à tous.
Comme les autres, pourquoi il faut suivre ce Montpellier-Angers en une minute?
Ouais, parce que c'est le match de la confirmation pour Michel Derzakarian. 7 points pris sur 9 possibles. Il a sorti Montpellier d'une mauvaise passe, voire très mauvaise passe. Il a arraché un match nul la semaine dernière contre Lens. Et ils veulent confirmer cet après-midi contre Angers, qui vit de son côté ses dernières heures en Ligue 1. Michel Derzakarian lui-même l'a reconnu. Ils savent qu'ils vont descendre. Donc il faut se méfier de cette équipe-là. Mais voilà, les Montpelliérains veulent confirmer cet après-midi le renouveau insufflé par Michel Derzakarian. Angers n'a plus gagné depuis 17 matchs et Michel Derzakarian veut que ses joueurs continuent. Et puis surtout, c'est le retour de notre chouchou sur la pelouse cet après-midi, TJ Savagnier, qui était suspendu la semaine dernière contre Lens, qui va faire son retour sur la pelouse. Un grand soleil, une Mosson chère à son cœur. On devrait voir un récital encore une fois de TJ Savagnier qui devrait régaler nos yeux, les yeux des spectateurs. Et j'espère ma voix, parce que voilà, quand TJ Savagnier est en forme, en général, ça fait souvent ficelle.
Parfait, Julien, à tout à l'heure. 15h.
Pourvu qu'il voit point rouge.
Évidemment.
Dans un quart d'heure, bien sûr, ce Montpellier-Angers, on suivra Reims, Ajaccio, Strasbourg-Brest et Toulouse-Clermont. Ces 4 rencontres à suivre en direct à partir de 15h dans l'Intégral Sport avec Simon Dutin. Avant de retourner à la Monaco, à 3 pour 3 Monaco et la fin de la rencontre, juste un petit détour par Paris-Nice. Arnaud Souk, on suit la première étape avec toi. Où on en est?
On en est désormais à 98 km de l'arrivée pour les deux hommes de tête. Ourselin et Grégard, le Danois. On est passé au sommet du premier grimpeur, on va dire, de ce Paris-Nice. Voilà la cote de Mignon, La Chapelle, cote de troisième catégorie. Paul Ourselin qui prend les trois points, en tout cas de celui qui est passé en premier. Il y aura une nouvelle difficulté tout à l'heure. On franchira de nouveau cette cote de Mignon, La Chapelle. Mais le Français qui est bien parti pour se battre, pour essayer de porter le maillot de meilleur grimpeur dès ce soir à l'arrivée à La Verrière. Il reste encore 97 km à parcourir, ces deux hommes, donc, dont le Français Paul Ourselin, ont 2-10 d'avance sur le peloton.
Allez, on retourne à 3 parce que c'est chaud pour cette fin de rencontre. Monaco qui mène 2-1 face à 3. Fred Joly.
Ah, il reste 2 minutes à jouer. La frappe, oh, la reprise. Il n'y avait pas en jeu sur ce coup-là. Eh ben, c'est étonnant. En tous les cas, le drapeau ne s'est pas levé, mais le ballon est passé à côté. Cette reprise, ça s'annonçait compliqué hein, pour Mbolo qui s'est complètement jeté, qui a manqué le cadre. Et Ben Yedder qui vient d'ailleurs de sortir. Hein. Il était remplacé par Boadou. Ben Yedder qui était, faut le dire, hein, Manu, du côté de Monaco. Ouais. Vraiment l'homme du match. Il a tiré cette équipe de Monaco vers le haut. Et il a d'ailleurs signé le doublé après avoir eu de nombreuses occasions. Et il a vraiment aider les Monégasques aujourd'hui.
Oui, oui, il a aidé les Monégasques, mais c'est surtout l'entrée de, comme on a dit tout à l'heure, hein, de Mbolo qui a vraiment été performant dans le rôle que Clément lui a demandé, c'est-à-dire de tourner autour de Ben Yedder et demander de la profondeur. Et on l'a pu le voir sur ce deuxième but où il demande le ballon sur le côté, donc contrôle orienté, un bon centre. Donc Ben Yedder, il a besoin de quelqu'un qui tourne autour de lui. Il n'a pas besoin de quelqu'un comme un volant. Volant, il n'a pas assez tourné autour et il n'a pas pris de profondeur. Et on l'a pu le voir tout le long du match. Monaco manquait de profondeur. Et avec Mbolo, ça a été plus marquant qu'en première mi-temps.
Sur le volant, il n'a pas beaucoup tourné, on ne l'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Il a fait un grand match et rien que l'entrée tunisienne, Mbolo a fait un bien fou. Hein. Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
5 minutes de temps additionnel pour voir si Troyes va pouvoir revenir dans cette partie parce que les Troyens étaient un temps lorsqu'ils menaient hors de la zone de relégation. Et là, ils sont retombés à leur 19e place. Et évidemment, ça serait une 6e défaite consécutive, une 6e défaite qui ferait très très mal évidemment à Troyes. On va suivre si les Troyens, avec toi, Fred Joly, vont pouvoir égaliser.
Avec ce ballon sur le côté gauche, le centre et la tête et le but. Oh, le but du Gbo. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Le centre de Abdou Konté. Et il est monté haut, Gbo. Il a mis la tête. Ah, elle est impeccable, cette tête. Nobel ne peut absolument rien faire. L'égalisation est belle. Le but est bien emmené. La défense monégasque a été un petit peu surprise par cette accélération. Mais en tous les cas, belle égalisation troyenne.
Oh, la défense. Moi, je dirais plutôt qu'elle a été passive, cette défense monégasque.
Là, on laisse centrer.
Quand on voit sur le côté déjà qu'il ne va pas le presser, qu'il le laisse centrer, et après dans l'axe, Disasi et Sarr ne s'entendent pas ou ils n'ont pas voulu aller vers le joueur. Il est tout seul dans l'axe.
Ah, il est seul. C'est pas normal. Ouais, complètement. Il est complètement seul. Le premier monégasque est à 1,50 m de lui. Il est complètement seul. Normal. Il a le temps de mettre la tête tranquillement, d'ajuster le portier monégasque. C'est pas normal, Manu. Hein, t'as raison. C'est dommage pour les monégasques.
Oui, parce qu'on voit Disasi qui est devant. À la limite, c'est pas mal dans sa position, mais on voit Sarr qui ne va pas vers le joueur moyen. Ngbou. Donc c'est pas normal. Il aurait dû le suivre et le gêner au moins pour quand il saute et quand il frappe de la tête. Là, il a rien fait. Il a été passif complet.
La fin de match de ce 3 Monaco en ballant 2 buts partout pour l'instant entre les deux équipes. Il reste quelques minutes à jouer. Dans le temps additionnel, un beau coup franc peut-être pour Monaco. Non, Fred Joly.
Si, une faute. Il y a une faute sur Jacobs. Non, c'est parce qu'il y a le public qui est en train de siffler un petit peu. Stéphanie Frappard qui a sifflé. Il y avait faute. Bon, Manu, tu connais quand même la partialité des supporters en général. Donc voilà. Ouais. D'après eux, il n'y a absolument rien. Il ne l'a pas touché.
Il n'y a rien. Juste une petite semelle sur le coup de pied.
Juste un petit peu essuyer ses
crampons. D'ailleurs, il a du mal à se relever, d'ailleurs, Jacob.
Ouais, mais c'est bon, il s'est relevé. Là, il tire un petit peu la jambe, mais il est venu se placer à l'entrée de la surface de réparation. Les Monégasques, à qui il reste 3 minutes pour tenter de reprendre l'avantage. 2-2, on le rappelle, hein, 3 ouvert le score. Ouais, mais égalisation Ben Yedder. Puis Ben Yedder a permis à cette équipe monégasque de prendre l'avantage. Le coup franc, les 2 points. Oh, il y a faute, là. C'est fait jeter le pauvre Gallon Allez, ils ne sont pas venus pour rien, les Monégasques, dans cette histoire. Gallon, qui avait été mettre les deux points pour éliminer le danger, il a pris de plein fouet un Monégasque en plein le buffet. Et là, il est au sol, il est un petit peu sonné, le portier troyen. On disait donc Ben Yedder qui a mis le doublé. Et puis Hugbo, la tête d'Hugbo sur ce centre d'Abdou Conté a permis aux Troyens de revenir au score, d'égaliser face à cette équipe de Monaco. 2-2, on va pas dire que c'est un moindre mal, mais bon, ça aurait pu être bien pire. Quoi qu'il reste encore deux bonnes minutes à jouer, il va falloir que les Troyens tiennent le coup pour raccrocher ce petit point qui ne fait pas avancer vraiment le Schmilblick, comme on dit.
Ah bah, cet avantage est ni l'une ni l'autre équipe. Hein. Oui.
Pour l'instant, Troyes est toujours 19e avec 20 points. Et bien sûr, Brest qui joue tout à l'heure, tout comme Ajaccio, pourrait prendre un petit peu plus le large en cas de victoire. Et pour Monaco, toujours 3e. Alors, ils prennent une place, 3e devant Lens hein, qui a fait match nul hier contre Lille. Mais ils restent derrière les Marseillais qui jouent ce soir contre Rennes. La suite, bien sûr, dans un instant de cette 26e journée. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette rencontre. 3 face à Monaco, Fred Joly, Manu Amoros. Les derniers instants, le match est arrêté pour l'instant, puisque Gallon, effectivement, il a pris un sacré coup, là, le gardien troyen.
Ah, il a du mal à se relever. Hein. Il a pris le joueur monégasque. Et puis quand t'es comme ça là, tu sors les deux points en l'air. T'as tout le reste du corps qui est plus trop protégé. Et bon, même s'il est solide, hein, le portier au bois Gauthier Gallon, il est un petit peu sonné. Là, ça va. Il s'est relevé. Ça va aller. On en a profité pour faire un changement du côté de Troyes puisque Lopez est sorti. Il a été remplacé par Dangmo. Voilà, sans doute le dernier changement de cette rencontre. Alors, oh là, il y a un carton rouge pour un des assistants de Patrick Kisnorbo qui vient de prendre un rouge, qui avait sans doute dû dire quelques mots pas très très gentils à l'attention de Stéphanie Frappin. Enfin, en tous les cas, voilà, une expulsion, mais c'était sur le banc. Le score est toujours 2-2-2, il reste une minute à peine à jouer dans le temps additionnel.
Deux buts partout entre Troyes et Monaco, les deux équipes qui ne vont pas faire une très très belle opération, Manu, et c'est vrai qu'on attendait sans doute mieux de l'AS Monaco, même si ce n'est pas terminé. On va voir, ils vont peut-être pousser dans les derniers instants, il reste quelques secondes à jouer. Fred Joly.
Ouais, c'est le ballon qui est dans les pieds des Troyens, le public qui se réveille un petit peu avec le buteur Kouaimé qui peut trouver de l'autre côté vers Abdou Conté, celui qui a été passeur décisif, qui retente le centre, mais cette fois-ci il a trouvé le dos d'un Monégasque. Ça va être récupéré, ça glisse un petit peu, attention à ne pas perdre cette balle du côté de Troyes car on va aller très vite du côté de la contre-attaque pour l'AS Monaco avec ce ballon sur le côté gauche. Jacobs qui est face à deux Troyens, il trouve finalement le genou de Bruce qui est monté d'un cran puisqu'on a eu l'entrée de Baldé, Tierno Baldé qui est rentré sur le côté droit, donc Bruce est monté légèrement d'un cran, il est venu faire le pressing sur le Monégasque pour l'empêcher de trouver une solution. La touche, elle est jouée, rapidement jouée, elle est précisément touchée du pied par Tierno Baldé sur ce côté droit de la défense troyenne. La touche une nouvelle fois alors qu'on a dépassé largement les 5 minutes de temps additionnel. C'est par-dessus la défense et ce sera un corner, certainement le dernier corner de cette. Ça sent la balle de match. Alors ils sont deux, ils le jouent rapidement. Le ballon, il faut le mettre dans la surface de réparation à un moment ou à un autre. Car c'est dégagé, c'est frappé, c'est sorti par le pied de Salmier. Et ce sera le dernier, même pas du tout, puisque l'arbitre de la rencontre, Stéphanie Frappin, siffle la fin de cette rencontre. Il n'y aura pas un dernier corner, une dernière chance pour Monaco qui devra se contenter de ce score de but partout. Les buts troyens, Kouaimé et Hugbo contre le doublé de Ben Yedder pour Monaco.
Merci beaucoup Fred Joly, merci de nous avoir accompagnés pour ce 3 bon face bon. À Monaco. À très très bientôt sur RMC. Merci Manu, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Ciao, bonne journée à toi. Tout de suite, l'intégral sport qui continue avec Simon Dutin, Sébastien Piocel, un programme de luxe. La Ligue 1 dès 15h, Toulouse-Clermont, Strasbourg-Brest, Montpellier-Angers, Reims-Ajaccio et à 16h, le Grand Prix de Formule 1. La première de la saison, c'est à Bahreïn et c'est à suivre en direct sur RMC. Bonne journée à tous sur RMC.
RMC. Intégral sport.